présenter rapidement Hugues Marshall, que vous connaissez peut-être pour avoir assisté ou avoir au moins voulu assister à son séminaire à Paris 3, intitulé « Organisme, histoire littéraire du corps interne au XXe siècle ». Hugues Marshall est chargé de cours à Paris 3. Il a soutenu en 2002 une thèse sur le corps dans la poésie au XXe siècle et collabore régulièrement à la revue Histoire littéraire. Je vais passer la parole à Marielle qui va présenter maintenant Michel Piersens.
Oui, Hugues et Michel Piersens se connaissent très bien. Donc c'est pour ça qu'on les a invités à dialoguer. Michel Piersens est professeur de littérature française à l'Université de Montréal et spécialiste, entre autres, des rapports entre littérature et science, et entre littérature et science dure, ce dont on n'a pas traité encore dans ce séminaire. J'ai en tête deux ouvrages. Le premier, qui s'appelle « La tour de Babil », le genre de titre qu'on voudrait, qu'on voudrait avoir trouvé, publié chez Minuit en... fin des années 70.
Oui, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop.
Sur l'imaginaire du savoir linguistique chez des écrivains du 19e et du 20e siècle. Et un autre ouvrage qui s'intitule Savoir à l'œuvre, essai d'épistémocritique, dont on vous a indiqué la. On vous a renvoyé à la publication de la préface sur Internet, sur le site maldoror.org, qui cette fois. Réfléchit de façon plus globale sur les transferts, les objets textuels et institutionnels de transfert entre littérature et discours scientifique, toujours 19e, 20e siècle. Et enfin, Michel Piersens est co-directeur de deux revues célèbres. La première, c'est la revue Substance, qui a été prise dans le débat sur l'affaire Socal, dont il va être question, je crois. Et la seconde est une revue plus récente qui s'intitule Histoire littéraire, donc à laquelle contribue aussi Hugues Marshall. Revue toute différente puisqu'elle porte sur la vie littéraire dans ses menus faits, mais aussi dans sa capacité à remodeler les modèles historiques. Voilà, donc on les remercie tous les deux d'avoir accepté notre invitation.
Merci de cette invitation. Alors, Michel et moi avons décidé de procéder de la manière suivante. Je voudrais lancer toute une série de pistes et de questions. Et le malheureux Michel va devoir faire face à ces interrogations pour essayer à la fois de parler assez largement des rapports entre science, littérature et questions de genre, on pourrait dire, ou d'appartenance. Et puis en même temps, éviter les généralités pour arriver peut-être un petit peu plus vite à certains points que Michel décidera de développer en fonction donc de ces perches que je vais essayer de tendre. Alors, je voudrais commencer par une anecdote. Cette anecdote, elle constitue une curieuse scène d'écriture qui est présente au début d'un roman qui s'appelle « Un homme chez les microbes », publié en 1928 par Maurice Renard. Alors, Maurice Renard est une des grandes figures du merveilleux scientifique en France. Et puis, il me plaît de le citer, car c'est aussi un auteur que Michel affectionne. Alors, dans ce prologue, le personnage de savant qui reviendra par la suite raconte comment il a commencé à rédiger un traité qui devait résumer 20 ans de ses recherches scientifiques. Et il explique avoir eu la surprise de trouver, sur sa machine à écrire, sous le carbone qu'il avait placé, non pas une copie du texte scientifique qu'il a rédigé, mais un autre texte, une fiction. Et c'est cette fiction qui nous est proposée de lire, donc sous le nom de « Un homme chez les microbes ». Alors, cette image m'intéresse parce qu'il me semble que, en montrant comment le texte du savoir se dédouble sous une forme fictionnelle, elle offre une belle allégorie des liens qui peuvent unir science et littérature, parce qu'elle les pose, ces liens en termes de copie, d'accompagnement, mais aussi en termes d'écho ou bien encore d'écart, de transformation, d'adultération, voire de rivalité. Elle a également le mérite de renvoyer les deux genres de textes, donc textes scientifiques et textes littéraires, à un geste unique qui rend parent l'homme de science et l'homme de lettres, le geste précisément de l'écriture. Enfin, elle désigne dans le savant un auteur qui est responsable, serait-il à son insu, du texte rationnel comme de la fantaisie satirique qui peut dédoubler ce texte, avec bien sûr ici un piment, c'est que le traité scientifique dont il est question, il n'existe pas, et la seule chose qui nous est donnée à lire, c'est ce double carbone que serait la fiction intitulée « Un homme chez les microbes », fiction tout à fait débridée où on apprendra, enfin, où quelqu'un va effectivement se retrouver, rapetisser, vivre chez des microbes qui ont un pompon, enfin c'est toute une histoire. Alors avec cette image de ce que j'appellerais un décalque variant, c'est-à-dire d'un faux décalque, un décalque qui ne fonctionne pas très bien, ce qui est intéressant c'est que la différence entre texte scientifique et texte littéraire me semble relever de ce que Duchamp a appelé l'inframin, c'est-à-dire le type de différence qui existe entre deux objets sortis d'un même moule, c'est-à-dire une quasi-identité, quelque chose où la frontière serait tout à fait ténue, ou encore où la frontière apparaîtrait plutôt comme une zone de contact, une zone d'échange, où les identités se mêlent. Or, ce type de confusion des genres est, quoique sur un autre plan, tout à fait interdit par une partie de notre pensée, et il est au centre de la polémique qui a été créée aux États-Unis puis en France, autour de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Sokal, justement, dont on avait annoncé qu'on parlerait un petit peu. Alors ici, je rappelle brièvement les faits, même si je pense que vous êtes tous assez familiers avec cette affaire Sokal. Alors, sous le titre précisément de Transgressing Boundaries, c'est-à-dire aller transgresser les frontières, un professeur de physique, Alan Sokal, a réussi à faire publier dans la revue Social Text un article relatif à certaines théories scientifiques récentes, dans laquelle il avait multiplié à dessein les erreurs scientifiques et qu'il avait truffé de références à des figures d'autorité telles que Derrida ou encore Bruno Latour. Et quand l'article a été publié, Sokal a révélé son canular en insistant sur la cible visée, et cette cible, c'était pour lui une partie de la gauche américaine, de la gauche intellectuelle américaine, qui, de son propre point de vue d'homme de gauche, s'enfermerait dans des discours élitistes de plus en plus coupés de la rigueur démonstrative et serait de moins en moins apte à évaluer même ses propres discours. Donc, du point de vue de Sokal, l'ensemble de ce qu'on appelait donc le Sokal hoax, c'est-à-dire le canular donc de Sokal, était fait d'abord pour viser ce point précis. Mais il a été monté en épingle et l'ensemble a très vite été présenté comme une triple attaque, d'une part contre la French Theory, c'est-à-dire l'influence française aux États-Unis, contre une analyse extra-scientifique du fait scientifique lui-même, donc comme si on voulait interdire à des non-scientifiques de parler sur les énoncés scientifiques, et puis enfin contre l'usage de métaphores scientifiques hors du champ scientifique, comme quelque chose qui ne serait pas justement rigoureux, qui marquerait une totale incompréhension ou une transformation des énoncés scientifiques. Alors, je ne veux pas revenir sur ces distorsions, parce qu'elles ont été abondamment documentées, avec deux choses. Le numéro de Alliage, qui est donc une revue sur les échanges, justement, entre disciplines, donc le numéro 37-38, que vous trouvez entièrement en ligne, auquel Michel a participé. Et puis aussi, vous trouverez toutes les pièges, j'allais dire, du procès, dans cette publication récente, qui est donc parue aux presses de Nebraska. C'est très très récent, et c'est de Sokal Hoax, il y a ici tous les textes, en fait, depuis l'article original jusqu'aux différentes retombées que ça a pu avoir. Alors, plutôt que d'essayer de prendre parti dans ce débat, je préférerais vous proposer une série d'interrogations, hein, c'est ce que je vous avais annoncé, et ces interrogations, elles seront en quatre grands points. Alors, le premier point, première grande question, ce serait comment pouvons-nous aborder, en tant que spécialiste des textes, des énoncés scientifiques. Hein, donc, comment aborder des énoncés scientifiques? Et vous voyez que la question, je la pose volontairement d'emblée en termes de pratique, et je ne cherche pas une autorité ou une autorisation pour, en tant que littéraire, m'intéresser à des textes scientifiques. Pourquoi? Parce que, tout simplement, nous ne pouvons pas faire autrement que d'étudier de tels objets. Donc, il me semble qu'on peut trancher le débat immédiatement, pouvons-nous ou non ne parler de textes scientifiques? Nous ne pouvons pas ne pas en parler. Alors, pourquoi nous ne pouvons pas ne pas en parler? Parce que, quand bien même nous voudrions nous restreindre à des textes proprement littéraires, eh bien, nous y trouvons en permanence des marques du savoir. C'est-à-dire que les textes littéraires eux-mêmes sont en dialogue constant avec des énoncés scientifiques, vont les inclure, et on est donc sommé, d'une certaine manière, par notre objet d'étude, d'examiner ces fragments de discours-là et de savoir quoi en faire. Et là, c'est ici que le travail de Michel Pirsens est tout à fait pertinent et tout à fait intéressant, à travers les outils qu'il a essayé de proposer pour fonder ce qu'il appelle une épistémocritique, c'est-à-dire en fait une approche du texte qui demanderait au texte ce que ces derniers savent. Donc non pas qu'est-ce que c'est qu'un texte, mais qu'est-ce que c'est au sens qu'un savoir, hein, qu'est-ce que c'est le texte et quel est le savoir qu'il me propose. Et ça, c'est quelque chose que vous trouvez donc dans l'ensemble d'articles et d'essais qui s'appelle « Savoir à l'œuvre ». Et dans la préface de « Savoir à l'œuvre », et puis encore à propos d'Artaud, Michel Pirsens développe un concept qui est tout à fait pertinent ici, qui est celui d'idéologue. Ce que Michel appelle un idéologue, c'est en fait l'actualisation que va prendre le discours scientifique chez un individu qui se trouve ici être un auteur. Alors le mieux, c'est que je vous redonne les définitions de Michel qui sont beaucoup plus claires que ce que je peux en redire. Donc ce sont les suivantes. Étudiant la linguistique d'Artaud, Michel Pearson se qualifie d'idéologue, je cite, « l'actualisation singulière d'un régime épistémique donné dans une situation d'écriture donnée ». Et pour simplifier, ou pour éclairer un petit peu cette formule, il continue en expliquant qu'on a là un savoir personnel et privé, un savoir fait de pièces et de morceaux, un bricolage qui récupère dans les discours d'époque les savoirs tout faits ou les vieilles traditions reniées par la vraie science, un ramassis de vérités ad hoc, sans aucun contrôle épistémologique, et qui n'est que l'un des savoirs possibles, appelons-les idéologues, pour insister sur leur singularité, que chacun se construit pour ses fins personnelles, en dehors de toute validation et de toute légitimation. Et ici, il y a quelque chose de très important pour comprendre l'usage de la science qui peut être fait en littérature. C'est un usage donc personnel, un usage qui ne cherche pas à être valide d'un point de vue scientifique, ou qui, disons, pour plus précisément, n'a pas à chercher cette validité, mais va en fait construire et représenter une certaine élaboration scientifique, un certain ensemble de savoirs. Alors, une des questions qu'on peut poser, évidemment, une manière donc d'approcher le texte scientifique dans la littérature, c'est de chercher à reconstituer ce que serait l'idéologue d'un auteur. Ça peut passer par la reconstitution de sa bibliothèque, ça peut passer par les marques hein, de cette influence des sciences. Second petit point, toujours dans cette première grande question, c'est une autre notion, donc je me contente hein, de vous donner différentes pistes, comme je l'avais annoncé, qui est la notion de percolation, autre notion chère à Michel, dont il pourra nous reparler s'il le souhaite. Et ce que Michel nomme percolation, c'est en fait l'étude de la manière dont un énoncé scientifique va peu à peu se diffuser dans une culture donnée, jusqu'à ce qu'on le retrouve dans des textes littéraires qui, à leur tour, peuvent être analysés comme des médiums, de nouveaux types de passeurs pour l'énoncé scientifique. Et il me semble qu'une des manières aussi d'aborder le rapport entre science et littérature va être de réfléchir à ces figures, à ces modalités possibles de passage par lesquelles il y a dialogue, c'est-à-dire d'où un auteur tire-t-il son savoir scientifique ? Par quoi cela passe-t-il ? Et à quel niveau de scientificité, par exemple, va-t-on chercher, etc., ces références ? Troisième petite remarque, toujours dans cet ensemble, c'est toujours, pour l'instant je pars des remarques de Michel, hein, dans des différents éléments qu'il a développés en choisissant quelques-uns. Michel a aussi souligné, ça me semble aussi ça marche bien, si vous voulez, c'est très opératoire, qu'il y avait une capacité propre peut-être au discours littéraire qu'on ne va pas retrouver dans les formes d'évaluation ou de reprise qu'on aura dans le champ scientifique, c'est la possibilité d'un rapport ironique à la science et un rapport décalé, hein, justement, qui va créer une forme d'humour, mais aussi une forme de mise à distance de l'énoncé scientifique par l'énoncé littéraire qui va le reprendre. Et ici, on peut penser, bien entendu, à une figure comme celle de Flaubert autour du Dictionnaire des idées reçues ou de Bouvard et Pécuchet. Toujours dans cette façon, dans ces types de questions qu'on peut poser, quatrième point, il y a à réfléchir sur ce que, pour ma part, j'appellerais le critère de l'indexation, c'est-à-dire ce que cherche un énoncé scientifique lorsqu'il va se référer à, ce que cherche un énoncé littéraire lorsqu'il va se référer à un énoncé scientifique, quel est le but cherché par un auteur littéraire lorsqu'on va faire une référence scientifique. Et parfois, il y a des buts assez évident dans la référence. Par exemple, ça peut être un signal de modernité. D'accord ? Ça peut être aussi la volonté de s'approprier une forme d'autorité scientifique. Alors, exemple de signal de modernité, il y a tous ces énoncés dans lesquels des auteurs littéraires vont indiquer vouloir écrire quelque chose qui soit en conformité avec une modernité scientifique. C'est-à-dire que faire allusion à l'histoire présente des sciences devient le moyen pour un texte littéraire de manifester sa propre contemporanéité. Alors, je vais vous en donner un exemple qui est très récent. Il est tiré de l'auteur de science-fiction, on va dire Maurice Dantec, que vous connaissez peut-être, c'est l'auteur des Racines du Mal, etc. Et dans son dernier roman, qui s'appelle Villa Vortex, qui date de 2003, Maurice Dantec écrit « Nous ne pouvons plus écrire comme si le décodage du génome humain n'était qu'un programme scientifique parmi tant d'autres. Nous ne pouvons pas continuer à écrire comme si l'ère du numérique ne procédait pas d'une intervention sur les secrets de la vie et de la mort. La narration elle-même ne peut plus rester à l'abri du décryptage général. » Ici, ça m'intéresse de voir comment, par exemple, on utilise la référence scientifique pour marquer une rupture littéraire. C'est-à-dire qu'on fait allusion à ce qui paraît être un événement hors du champ littéraire, le décryptage du génome, donc assez massivement, hein, toute l'influence, etc., de la génétique, pour dire, à cause de ce discours-là, on ne peut plus écrire aujourd'hui, on ne peut plus écrire un roman comme auparavant. Alors ensuite, il y aura toute une série de motivations, de justifications qui seront données, mais on voit bien ici comment le littéraire peut faire usage de la chronologie, d'une certaine manière scientifique, hein, pour manifester sa propre modernité. Et c'est là une sorte d'usage assez original qui manifeste des liens. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment ce qui est un énoncé de rupture d'un point de vue littéraire, on ne peut plus écrire comme avant, et en même temps un énoncé qu'on pourrait appeler un énoncé de suture entre la littérature et les sciences. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a à la fois une opération de rupture interne littéraire et une tentative de rapprochement entre science et littérature ici, puisqu'on affirme que l'influence de la science doit être telle qu'on modifie la façon dont on écrit. Alors, autre point, autre approche possible, c'est bien entendu de penser à la littérature comme miroir, représentation de l'institution scientifique et aussi de ses savoirs. Et dans ce cas-là, je pense qu'on peut reposer ça en termes de genre, en voyant qu'évidemment, comme à chaque fois, comme dans toute description, j'allais dire, décrire ou évoquer la science, c'est aussi très souvent, pour la littérature, un moyen de se décrire ou de se définir, fût-ce en s'opposant à la science, hein, pour chercher son propre être, sa propre originalité. Alors, exemple de formule qui me semble relever de ce mécanisme, c'est le moment où Baudelaire, dans un texte très célèbre, décrit ce qui pour lui doit être la meilleure critique, dit-il, et il dit la meilleure critique, c'est celle qui ne sera pas froide et algébrique. D'accord ? Et ici, le mot d'algèbre apparaît tout d'un coup comme une référence à une certaine posture, on pourrait dire à un style scientifique qui sera un style objectif par excellence et que refuse Baudelaire au nom de la nécessité de, en fait, d'une prise de position individuelle dans une critique qu'il définit donc comme la meilleure critique. Alors ici, on voit comment, hein, au passage, autour d'un simple adjectif, on a mis à distance de la science pour penser une originalité de l'écriture. Alors, je continue, il y aura aussi toujours dans cette question, hein, comment approcher cet ensemble, quelles questions se poser. Bien entendu, le rapport entre littérature et science n'est pas qu'un rapport thématique, c'est aussi un rapport formel, au sens où un certain nombre d'auteurs empruntent à la science, non pas seulement des thèmes, des objets de description, mais aussi des processus, des protocoles, voire des formes, tout simplement. Hein. Et ici, on peut penser, bon, très rapidement, simple exemple, au travail que Loulipo a fait autour de modèles scientifiques, par exemple, ou de modèles mathématiques. Autre point encore, il me semble qu'on ne peut pas ne pas poser ici la question de la technologie, c'est-à-dire du médium, parce que toute une série de pratiques, en particulier contemporaines, en littérature, rencontrent la science à travers le médium qu'elles utilisent. Exemple, la poésie informatique, qui va utiliser en fait un médium qui est un médium d'origine scientifique et donc a aussi à acquérir un certain savoir dont il n'est pas évident pour nous que ce savoir technologique ne soit pas d'abord un savoir d'ordre scientifique avant qu'on puisse le penser en termes littéraires. Et la même chose vaudrait pour un autre champ émergent, j'allais dire, qui serait la poésie génétique. Aujourd'hui, certains poètes, parmi les avant-gardes, ont tenté d'écrire des poèmes avec le matériel vivant, autour des métaphores du code, et là encore, ça veut dire qu'on a des moments où il y a un processus de collaboration qui se met en place autour d'un projet artistique ou esthétique chez un auteur, mais avec un personnel scientifique qui va les aider, par exemple, à intervenir, à inscrire un texte de manière codée dans le génome d'une bactérie, hein, pour une des œuvres auxquelles je pense. Et puis enfin, il y a aussi à penser, toujours, vous voyez, c'est très très large, hein, toute cette zone d'indétermination où on a des auteurs littéraires ou catalogués comme littéraires qui sont en fait signataires de textes qui sont eux scientifiques. On peut penser à Semmelweis de Céline, hein, c'est un des exemples les plus nets, c'est la thèse de médecine de Céline, hein, Semmelweis, donc sur l'hygiéniste Semmelweis, mais aussi à quelqu'un peut-être un petit peu moins connu en France comme Samuel Butler, qui est donc l'auteur de toute une série de récits littéraires anglais, et en même temps aussi un biologiste reconnu avec un texte qui s'appelle « La vie et l'habitude ». Et là, donc, comment est-ce qu'on intègre à un corpus, au corpus de son auteur des textes scientifiques si on a un auteur qui est précisément sur cette frontière, hein ? C'est partie des questions qu'on peut se poser. Deuxième grand point, quelle est, donc après cette première partie qui serait « Quelles questions poser, hein, en tant que littéraire à des textes dans lesquels apparaissent des énoncés scientifiques ?» Deuxième grande partie, comment va-t-on analyser, je dirais, le statut de la littérature dans ce qu'on pourra appeler des boucles de rétroaction ou d'échange culturel? C'est-à-dire, comment est-ce que on peut analyser la manière dont la littérature s'inscrit quand elle traite du scientifique, dans des systèmes d'échange. Alors, il y a évidemment circulation de motifs. Et là, on pourrait revenir à l'affaire Sokal, puisque l'affaire Sokal, précisément, voudrait empêcher, d'une certaine manière, cette circulation. Dire on ne peut pas reprendre, entre autres, des métaphores scientifiques dans des textes qui ne sont pas des textes scientifiques. Alors, il y a, dans ces processus de circulation, l'une des réponses qu'on peut faire à Sokal, c'est que, de toute façon, l'échange des métaphores, l'emprunt, n'est jamais monovalent, mais marche toujours dans les deux directions. Il y a un exemple très très net de ça, si vous vous intéressez un petit peu à la génétique aujourd'hui, c'est que c'est tout à fait fascinant de voir comment le discours des généticiens, le discours le plus rigoureux, le discours le plus scientifique, utilise toute une série de concepts qui sont empruntés à la littérature, aux outils de la littérature, et même aux outils d'étude de la poésie. Par exemple, on parle aujourd'hui en génétique, pour définir la façon dont les gènes se recombinent, de chiasme, ou on parle d'enjambement. Sur le modèle de la poésie. Hein, parce qu'on avait trouvé quelque chose qui permettait de penser ça en poésie. Donc, et de la même manière, on parle aussi, par exemple, Jacob parle de calembour au niveau des gènes, etc. Hein, donc ici, on a toute une réflexion qui s'ouvre sur le statut de la métaphore scientifique. Alors, c'est mené par, dans d'autres directions. Ici, je voudrais simplement peut-être souligner un paradoxe, c'est que pour penser, en fait, cet échange métaphorique, cet emprunt, finalement, la science n'est peut-être pas la mieux armée, y compris pour penser ses propres discours, parce que le savoir rhétorique, la réflexion sur les notions d'autorité, de preuve, de citation, etc., c'est un savoir qui est d'origine assez largement littéraire, ou en tout cas qui nous est plus familier. Et c'est ça qui me semble assez paradoxal chez Sokal, c'est qu'il veut quand même aussi dénoncer dans son article un recours à des figures d'autorité, et en même temps, l'identification même de ce type de figure vient d'une réflexion d'ordre rhétorique, on va dire peut-être, pour ne pas dire directement littéraire. Alors bon, je passe sur d'autres points. On pourrait aussi réfléchir à la notion de prestige. Très souvent, on dit que s'il y a emprunt si la littérature est tentée ou la poétique est tentée d'emprunter des métaphores à la science, c'est pour s'accaparer le prestige de la science. C'est juste, mais ça doit être nuancé, en particulier parce que la science n'a pas toujours eu ce prestige. Et Michel, dans un de ses articles, soulignait très justement que Lamartine, par exemple, rue dans les brancards contre Arago au XIXe siècle, en lui rappelant un petit peu quelles étaient les hiérarchie, qu'il fallait quand même pas penser que la science était supérieure à la poésie ou à la littérature. Donc on se rend compte qu'à un certain moment, qui n'est pas si loin que ça, le prestige n'est pas du côté de la science. D'accord ? Donc il faut faire attention à ne pas ici aller plaquer des choses. Alors, troisième point, j'accélère parce qu'il y a abondance de questions, donc on pourrait aller très largement. J'allais dire, troisième grande question, quelle est la littérarité des textes scientifiques ? Hein ? Tout à l'heure, j'ai surtout insisté sur la présence de dénoncés scientifiques dans des textes littéraires, mais à l'inverse, comment penser la littérarité possible des pratiques scientifiques ? Alors ici, toujours différents champs, différentes questions s'ouvrent à nous. D'abord, autour des textes littéraires des hommes de science. Donc non pas les textes scientifiques de littéraires, mais à l'inverse, des textes littéraires des hommes de science. Ici, il y a toute une série de traditions qu'il faudrait analyser, qu'on peut adopter, utiliser, comme précisément des confluences de genre, où opposer nettement littérature et science ne marcherait pas. Je pense à la poésie scientifique, par exemple, et qui n'est pas seulement active au XVIe siècle, mais au tout début du XIXe siècle encore, chez quelqu'un comme Jean-François Sacombe, qui était un obstétricien, on trouve une épopée en 10 chants, en alexandrin, sur le thème de l'accouchement, ça s'appelle la Lusignade, et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que ça n'est pas du tout inintéressant littérairement, mais c'est d'abord un projet d'ordre scientifique, et ça s'inscrit dans des polémiques, des pamphlets, qui très souvent prennent une forme poétique d'ailleurs à l'époque. Alors, on pourrait en donner d'autres exemples, hein, et aujourd'hui, de la même façon, quelqu'un comme Laurent Gaspard, dans des textes où il médite en tant que poète sur l'influence de la génétique, nous pose des questions d'identification générique, parce que Laurent Gaspard est lui-même chirurgien. Donc est-ce qu'on a là un texte de Gaspard poète ou un texte de Gaspard chirurgien ? On aurait aussi toute une série de questions à se poser. Alors, deuxième ensemble de questions aussi, ce serait sur tout ce qui a trait à la vulgarisation. Qu'est-ce que c'est que le travail de vulgarisation chez les scientifiques ? Et est-ce que souvent ce n'est pas un travail de littérarisation ? Hein, ça aussi, c'est un assez gros ensemble de questions qu'on pourrait se poser. De la même façon, on repérera cette fois-ci, non pas du côté de la vulgarisation, mais dans la recherche scientifique elle-même, des pratiques, des procédures qui sont en fait très très proches de ce qu'on connaît en littérature. Alors je voudrais vous en donner deux exemples, c'est celui de l'invention lexicale et c'est celui de l'élaboration fictionnelle. Par exemple, François Jacob, dans son autobiographie qui s'appelle La statue intérieure, en 1987, décrit de cette manière la démarche scientifique. Il dit, dans ses pages 301 de l'édition Folio, je cite, « La démarche scientifique commence par l'invention d'un monde possible ou d'un fragment de monde possible pour le confronter par l'expérimentation au monde extérieur. Et peut-être que là, il y aurait quelque chose à penser autour de toute la théorie des mondes possibles, où on voit qu'elle est ici réutilisée, que la démarche scientifique est pensée comme fiction qui marche ou qui ne marche pas. Hein, dans le... Et puis, autre chose, c'est la question du style, en fait, de chez les scientifiques eux-mêmes. Et ça, Jacob la pose dans le portrait qu'il donne de André Lvov. Alors, André Lvov, c'est quelqu'un qui est très important dans la découverte des virus, etc. Et voici comment le décrit Jacob. Il dit, la science, pour lui, c'était d'abord des objets, des organismes, ensuite, mais aussi important, et ça me semble très important à souligner, mais aussi important, venaient les mots qu'on caressait également, qu'on agençait pour décrire les choses avec un soi presque maniaque. Et on trouve chez Jacob plusieurs comptes rendus des séances, j'allais dire de terminologie, où les scientifiques se sont réunis pour décider du nom qu'ils allaient donner aux objets qu'ils avaient repérés. Et c'est très intéressant parce que là, on voit que la démarche est très très proche de celle de poètes qui réfléchissent à l'impact qu'auront utilisé et qu'il y a tout un imaginaire adamique qui est là. Jacob dit « parce qu'on nommait les choses, elles existaient vraiment ». À ce moment-là. Et là, il y a vraiment quelque chose du côté Adam, hein, nommant ce qu'il va découvrir pour la première fois. Et puis, dernier point, il me semble que le statut de l'essai scientifique, en termes de genre, dépend aussi, bien entendu, de sa réception. Et ici, je terminerai à peu près par là, vous citez une remarque de Larbeau, à propos d'un auteur, d'un biologiste qui est devenu un petit peu inconnu aujourd'hui, un biologiste du XVIIIe siècle qui s'appelait Maupertuis, l'auteur du « Système de la nature », et Larbeau lit ce texte en 1919 dans le cadre d'un tout un travail de traduction qu'il fait justement sur Samuel Butler. Il se plonge dans des lectures de biologistes, etc. Et il est tout à fait fasciné par Maupertuis, mais fasciné pour des raisons littéraires. Et on a là, alors il a un accueil tout à fait enthousiaste du texte de Maupertuis. Il dit « J'ai d'abord été décontenancé, puis j'ai réagi, j'ai admiré. Ce texte est splendide, à la fois en tant qu'exemple de finesse philosophique et aussi en tant, et là il souligne, qu'œuvre dramatique, et il ajoute « Quel merveilleux écrivain comme Maupertuis, je voudrais le faire connaître à d'autres gens, à Gide, et aussi à Jacques Rivière. » Donc on voit qu'ici, il y a vraiment la reconnaissance d'un égal en tant qu'écrivain, hein, chez un auteur. Alors, bon, on pourrait continuer, etc., de la même façon, je veux laisser la parole à Michel. Alors, simplement encore une remarque, ça aurait été mon quatrième grand point, c'est que, bien entendu, il faudrait s'interroger sur les variations géographiques et historiques que connaissent les divisions entre les genres. Hein. Ici, il y a, je crois, à penser le rôle du temps, en particulier le rôle du temps en tant qu'opérateur de péremption pour certains énoncés scientifiques, qui à ce moment-là, très souvent, me semble-t-il, glisse du côté de la littérature, du côté de l'esthétique. On va les lire quand même, parce que c'est intéressant, même si c'est faux, et parce que, pas seulement parce qu'on a une démarche d'historien des sciences. Il me semble que là, très souvent peut-être, on aurait une façon de penser un mécanisme par lequel la science rejette vers le littéraire ou l'esthétique, les textes, les énoncés, les représentations qui ont cessé ou qui n'ont pas été reconnus comme valides. Et puis, dernier point encore, c'était juste, alors ça, bon, allez, je passe, pardon. Je conclurai simplement avec la remarque suivante, c'est que toutes ces questions nous amènent à questionner nos cartographies, ce qu'on peut appeler nos cartographies des proximités disciplinaires. Et très souvent, on a tendance à séparer nettement le littéraire d'un côté ou l'esthétique d'un côté et le scientifique avec les dichotomies sciences dures. Les Anglais parlent de two cultures, hein, comme s'il y avait deux cultures différentes. Alors qu'en fait, dans la réalité, selon le type d'auteur auquel on s'intéresse, ici je pense à des gens comme Larbeau, mais aussi à Michaud, etc., on se rend compte qu'assez souvent, des auteurs littéraires, ont pour compagnie comme lecture de chevet, comme voisinage et comme rivaux, même fantasmatiques, des auteurs scientifiques. Et ça, on le sait très nettement, par exemple, chez Michaud, qui dévorait toutes les revues de vulgarisation, qui lisait abondamment des textes scientifiques, qui déclarait lire ça avec beaucoup plus de plaisir que d'autres textes littéraires. Hein. Et je crois que là, il faut aussi penser, selon la singularité des auteurs, quelle était, j'allais dire, leur intertextualité élective, hein, qui nous amène à penser des rapprochements là où on aurait vu avant un espace, plutôt. Hein, donc je m'arrête sur ce point et je laisse Michel prendre la parole avec en particulier peut-être une coercitive suggestion, c'est que tu nous éclaires sur ce que tu appelles le pacte épistémique.
Vaste programme. Tu as fait un exposé foisonnant. Là. Il y a évidemment beaucoup de choses que je voudrais reprendre, d'autant plus qu'elles sont pour moi problématiques également. Donc, je crois que tu as bien dessiné là, le périmètre d'une problématique où on rencontre toute une série de, si j'ose dire, de sous-problématiques qui elles-mêmes peuvent être tout à fait considérables. Hein, et tu en as énoncé quelques-unes. Alors, je peux commencer effectivement par cette notion de pacte épistémique qui reprend d'une certaine manière la question que tu poses à la fin à propos de la réception, puisque, comme vous le savez, hein, cette notion de pacte qui a été mise au point d'abord à propos du pacte autobiographique par Philippe Lejeune, je crois, est une notion très riche et qui implique surtout que la réception puisse être considérée comme une sorte de mécanisme contractuel ou contractualisé, c'est-à-dire dont on peut énoncer les termes sous une forme rigoureuse. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque on s'engage dans une lecture, hein, que ce soit conscient ou non, mais c'est la même chose dans la vie courante, hein, on ne sait pas quels sont les droits ou les devoirs qu'on exerce toujours, on s'engage effectivement dans quelque chose qui nous engage et nous engage à donner un certain poids, hein, une certaine valeur à différents éléments de ce dans quoi nous entrons. Alors c'est un petit peu abstrait comme formulation, mais on peut comprendre plus clairement à partir d'un certain nombre d'exemples concrets. Si on lit un texte du 19e siècle, hein, texte éminemment riche, c'est pas tout à fait par hasard, en confrontation, rencontre, réutilisation de la science ou des savoirs en général, c'est pas dans la fiction, il est clair que le lecteur de Zola ou de Flaubert, voire de Balzac, hein, plutôt dans le siècle, ce lecteur engage un certain nombre de croyances, hein, vis-à-vis de ce dont il va être question. Ces croyances sont des préalables. Il faut, alors je vais dire ça de façon extrêmement schématique, il faut croire à la machine à vapeur, par exemple, hein, pour accepter ce que dit Balzac de la révolution qui va s'emparer de l'imprimerie et donc de l'édition, donc de ce qu'on appellerait aujourd'hui les médias, donc de la culture, dans Illusion perdue. Enfin, c'est l'histoire de la presse de Stanhope. De la même manière, il faut évidemment croire, hein, à la machine à vapeur, il faudrait préciser un peu ce « croire ». Pour lire La Bête humaine, par exemple. Bon, ce sont des exemples très très élémentaires, mais il est évident que le lecteur doit venir à sa lecture avec un certain nombre de représentations préalables qui permettront au texte de ne fournir que des esquisses cognitives que le lecteur va remplir, hein, au fur et à mesure qu'il va lire les textes. Alors, ça, ce sont des choses qui sont plus proche de ce que nous appelons aujourd'hui la technologie, qu'on appelait la technique, hein, que de la science. Mais on pourrait aller soit dans des directions plus abstraites, soit dans des directions plus concrètes, et on retrouverait la même chose. Ces présupposés cognitifs, par exemple, ou épistémiques, hein, c'est le terme que personnellement je préfère utiliser pour mieux caractériser ces dont il est question là, ces présupposés épistémiques qui peuvent être très généraux et très profonds et peu visibles. Ça peut porter, par exemple, sur les conceptions que l'on se fait du temps et de l'espace. Il est évident que on n'a pas on ne partage pas aujourd'hui la conception spontanée, hein, si je puis dire, de l'espace et du temps que l'on avait avant l'invention de la quatrième dimension. Hein, la quatrième dimension qui a elle-même fait l'objet de toutes sortes de rêveries, fantaisies, fictions, etc., aussi bien dans les sciences que dans les arts et dans la littérature au tournant du XXe siècle. Il y a là une rupture épistémique qui s'est produite, hein, entre deux mondes qui ne pensent pas l'inscription dans le temps, qui ne pensent pas l'inscription dans l'espace de la même façon. Alors ceci, ça a des conséquences sur la manière dont on reçoit les textes. Lorsque nous lisons des textes, hein, qui précèdent cette période, cette période de changement profond, donc dans l'équilibre épistémique et cognitif, hein, nous traduisons ce que nous lisons en fonction de ce que nous savons. Alors, le pacte épistémique dont je parle, il est, vous le voyez, il est double. Il est d'une part celui que pose le texte à partir de ce qu'est son contexte épistémique, mais il est aussi ce que nous lui apportons à partir de notre contexte à nous. Alors c'est pourquoi je trouve utile de se servir de cette notion, parce que ce pacte, vous le voyez, il est piégé, bien entendu, mais il est nécessaire d'en repérer les paramètres, hein, pour comprendre en particulier ce que nous ne comprenons pas ou ce que nous ne comprenons plus. Non. Ça, c'est une des choses qui me paraît importante et qui renvoie à ceux qui travaillent de la manière la plus efficace, aussi bien dans les sciences que dans la littérature, hein, c'est le rapport non pas à ce qui est su, mais à ce qui n'est pas encore su ou ce qui est mal su. Hein, ou on peut dire ça dans des termes un peu romantiques du 19e siècle, hein, le rapport à l'inconnu. Hein. Donc vous le voyez, le pacte épistémique dont je parle, hein, d'une part, il présuppose une certaine connivence vis-à-vis de ce qui est supposé connu, hein, mais en même temps, il met en danger, il met en défaut cette connaissance, puisqu'il nous appelle en direction de ce qui demeure inconnu de nous, hein, et de ce que donc nous ne comprenons plus, nous ne comprenons pas, nous ne comprendrons peut-être pas, jamais, hein, et ce qui fait le fond, en tout cas une bonne partie du fond du travail de la fiction, au moins depuis le 19e siècle. Alors, on pourrait développer ceci, hein, et s'engager dans une description un petit peu plus formelle de ce dont est composé ce pacte, mais je me contente de poser que je crois qu'il existe, hein, et que le simple fait d'ouvrir un livre, enfin, de commencer une lecture, hein, c'est une rupture de sceau, hein, classique, hein, et donc une acceptation d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de paramètres qui vont à la fois orienter et désorienter la lecture. Hein. C'est pour ça que la fiction est efficace du point de vue épistémique. Ça te va ?
Ça me va. Alors, peut-être, si, est-ce que tu veux continuer à parler d'autre chose ou est-ce que tu veux que je rebondisse sur ça ?
Comme tu veux, c'est toi qui décide.
Alors, donc, j'allais dire, comment. Là, tu as parlé beaucoup de fiction. Et par rapport à la non-fiction, justement, alors, par rapport à la poésie ou à l'essai, comment tu penserais ce pacte, ou plus largement, le rapport entre les deux ? Parce que c'est vrai qu'on, très souvent, hein, on est ramené vers la fiction comme ça, mais il y a d'autres...
Oui, bien sûr. Alors, c'est évidemment un petit peu compliqué, parce que le partage générique, là c'est peut-être à Marielle qu'il faudrait poser la question, le partage générique est jusqu'à un certain point indifférent à la question épistémique. Bon, tu l'as dit, il y a toutes sortes de poètes, de poésie, qui ont travaillé à partir d'éléments cognitifs. On peut dire qu'une grande partie de l'effort poétique, depuis au moins la fin du XVIIIe siècle, hein, a été orienté en fonction de ce désir, hein, d'accroissement cognitif. Alors, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous ne lisons plus la poésie du XVIIIe siècle. Pour nous, elle n'est pas de la poésie parce qu'elle se donnait largement comme objectif, hein, la transmission d'un savoir ou l'exploration d'un savoir. C'était une époque où le grand modèle poétique, c'était Lucrèce. Donc le type même de la poésie qui a comme objectif non pas de procurer en priorité en tout cas des émotions poétiques, hein, quel que soit le sens qu'on peut donner à cette expression, mais qui était destiné à donner avant tout des émotions cognitives. Hein. Là, évidemment, ça traverse tous les genres. On a des traces de ça, tu en as mentionné un exemple au début du 19e siècle, mais il y en a d'autres. Là, je vous recommande par exemple la lecture de Nepomucène Le Mercier. Nepomucène de Mercier, qui est un poète tout à fait considérable du début du XIXe siècle, dont l'œuvre est totalement caduque, mais précisément pour la même raison, c'est que toute son œuvre, hein, est une tentative très considérable, hein, très ambitieuse, intellectuellement intéressante, de dire, hein, la vision scientifique moderne, hein, que l'on pouvait se faire du monde. Bon. Alors évidemment, cette précipitation vers la modernité scientifique de son temps, hein, c'est quelque chose qui a entraîné aussi sa disparition de l'horizon scientifique. Mais c'est tout à fait paradoxal, parce que, de façon moins, évidemment, programmatique, beaucoup de poètes, après lui, ont fait la même chose. Il y a toute une dimension de même nature chez Hugo. Enfin, Hugo qui l'investit, d'ailleurs, plutôt de préférence dans le roman que dans la poésie. Mais c'est présent quand même. Lorsque Hugo, hein, écrit les fragments de la légende des siècles, hein, c'est une théorie de l'histoire et une théorie de l'histoire humaine également qu'il produit. La poésie, hein, pouvait être, pour quelqu'un comme lui, pouvait être un outil, hein, de diffusion et de réflexion cognitive. Tout à fait.
Ajouter ou poser une question sur ce problème de la poésie didactique. Je ne suis pas, peut-être pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites là, parce que quand on relit l'Hermès de Chénier, par exemple, les grands poèmes didactiques du XVIIIe siècle, surtout quand ils sont produits par des bons poètes, on se rend compte que ce qui les rend illisibles, ce n'est pas tellement le fait que les savoirs dont ils parlent sont devenus caducs, parce que les mêmes savoirs caducs continuent à nous intéresser quand nous le lisons chez Maupertuis, chez Buffon, et dans une large mesure chez les prosateurs ou hommes de science du XVIIIe siècle. Ce qui le rend caduc, c'est tout simplement que le langage poétique est devenu absolument insupportable, que c'est un des textes qui sont écrits avec 80% de périphrases arabiscotées, hein, Chénier écrit comme l'abbé de Lille, hein, et c'est ça qui rend, bon, dans une assez large mesure, me semble-t-il, le barrage, il est là, et il rend difficile une lecture archéologique de ses poèmes, alors qu'on peut avoir une lecture archéologique intéressé par un certain état de l'avancée du développement du savoir, quand on relit Buffon, ou quand on relit des tas de naturalistes, en fait. Hein.
Oui,
particulier à la poésie, ça.
Oui, mais je crois que c'est justement parce que là, nous avons, de manière unilatérale, rompu le pacte épistémique. C'est-à-dire que, pour nous, c'est insupportable de voir du savoir, hein, traduit dans une forme poétique qui ne nous dit plus rien. C'est là où il y a le problème. Et je crois que la caducité, ouais, hein, de cette poésie-là, elle est double, en fait. Elle est redoublée. Lorsque nous lisons les textes de fiction, enfin, les textes de Maupertuis, les essais, etc., nous les lisons désormais comme de la fiction, parce que la fiction, c'est devenu notre genre. Hein. Et nous ne pourrions pas tolérer aujourd'hui, hein, très difficilement, je crois, une poésie didactique, hein, qui épouserait les formes poétiques contemporaines. Je crois que la même problématique que se reproduirait. Et dès que le savoir est un petit peu vieilli, hein, de ce même fait, hein, l'ensemble tombe dans la désuétude. Alors, ça me fait revenir à quelque chose, ouais, que mentionnait à propos du fait que, à partir d'un certain moment, certains textes scientifiques, hein, tombent dans la littérature. Alors, on peut dire ça comme ça, hein, il y a une façon de devenir de la littérature, de n'être plus que de la littérature, à partir du moment où certains textes, hein, produisent ou proposent des savoirs qui ne sont plus des savoirs actuels. Alors, c'est toute la problématique qui est celle de Queneau dans Les Enfants du Limon, et de manière générale, la question, on dit des fous littéraires, de façon très impropre, puisque les fous littéraires sont généralement des fous scientifiques. Enfin, ils ne sont pas fous, d'ailleurs, hein, la plupart du temps. Des gens, ceux que rassemble Queneau sont parfois un peu agités, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, mais la plupart du temps, ce sont des gens qui prennent le savoir au sérieux. Enfin, le problème, c'est que le savoir a cessé, eux, de les prendre au sérieux à partir d'un certain moment. Alors, là encore, c'est un effet de réception. Hein. Nous nous délectons dans notre position supérieure, hein, quand nous lisons aujourd'hui un texte où le savoir est manifestement complètement à côté de la plaque, a été complètement laissé de côté par l'évolution des sciences. Hein. Alors, il y a là quelque chose qu'il faut réfléchir, naturellement, parce que il y a d'une part une certaine injustice, hein, à dénier à ces auteurs, hein, l'authenticité de leur recherche du savoir, hein. Et dans un grand nombre de cas, ce savoir, hein, si l'on y porte une certaine attention, ce savoir n'est pas un savoir, si j'ose dire, à jeter, hein, ou à rejeter totalement. Il est, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce que tu as mentionné à propos d'Artaud, par exemple, hein, où on ne peut pas simplement dire Artaud, hein, avec une vision complètement aberrante de la linguistique. Hein, non, il y avait, hein, toute une instrumentalisation de références linguistiques théoriques qui avaient tout à fait une pertinence dans un certain contexte, hein, mise dans un ensemble assez hétéroclite, ça, bien entendu, hein, mais qui ne discrédite pas les points d'origine, enfin, des origines proprement scientifiques. Donc, si l'on regarde bien les choses de façon un petit peu plus historiciste, disons, hein, on se rend compte que les savoirs qui ont été mobilisés ont été des savoirs authentiques, hein, et que un certain nombre de transformations qui ont eu lieu ultérieurement, transformations à la fois scientifiques mais aussi littéraires, font que nous refusons le pacte qu'ils nous proposaient. Hein, il a tout à fait changé de base.
Et à propos de ce pacte, il y a une distinction faite par l'essai d'épistémocritique qui est celle entre des savoirs passifs, des savoirs implicites, ce que les textes savent malgré eux, quelle vision ont-ils de la vision, est-ce que c'est une lumière projetée par les yeux sur les objets, ou est-ce que c'est le soleil qui se réfléchit sur les objets, et leur ambition cognitive elle-même, et leur ambition à produire eux-mêmes des objets. Et ça nous oriente dans deux directions de recherche qui ont été explorées, je crois, par tes travaux, Michel, qui sont à la fois une dimension critique, les implicites textuels, les implicites cognitifs, et en même temps, la position qui se dit en des termes d'autorité, de partage de champ, entre les pouvoirs et les vérités cognitives de la littérature et ceux de la science. Et c'est pour ça que c'est un double contrat, en fait.
Oui, alors c'est une chose assez difficile à explorer. Mmh. Et Hugues a mentionné l'usage que je fais de la singularité. Hein. Je crois que c'est important là, de rappeler ceci. Hein. Pour moi, c'est fondamental. Les textes que j'ai essayé d'étudier, ou les textes, ou n'importe quel texte qu'on peut lire sous l'angle de l'épistémocritique, hein, je crois qu'il ne faut pas se précipiter pour les ramener à un modèle général. Ce qui me paraît intéressant dans le travail de la littérature, de façon générale, c'est la singularité de la construction qui est faite. Alors, tantôt, il s'agit d'une construction faite à partir, si je puis dire, de matériaux trouvés, hein, de choses que tout le monde possède, des savoirs que nous avons tous plus ou moins en commun, hein, que nous pouvons reconnaître ou non, accepter ou non, hein, et là, ce serait peut-être un des premiers versants du pacte de lecture. Et puis, il y a l'autre dimension qui est celle qui nous sollicite, c'est-à-dire qui désigne, à partir du travail de l'écrivain, qui désigne des zones pour lesquelles nous n'avons pas de savoir. Si je peux prendre un exemple de ça, c'est évidemment ce qui m'intéresse le plus. Hein, parce que le premier versant nous amène du côté plutôt de la recherche sur l'histoire institutionnelle, hein, celle de la construction effective des savoirs, de leur mise en forme explicite, etc. La deuxième nous amène plutôt du côté de ce qui est en rupture par rapport à ça, de ce qui déchire, c'est pas, le tissu des savoirs maîtrisés, hein, qui ouvre sur de l'inconnu. J'utilise moi-même pour ça des métaphores qui sont souvent utilisées par les écrivains eux-mêmes ou par les scientifiques, hein, parce qu'il s'agit de décrire cette approche de la novation. Hein, tu l'as mentionné également, l'inconnu, la novation, hein, une façon différente de savoir, quelque chose d'autre à savoir. Hein, ça, c'est là, lorsque un texte s'approche de ce lieu-là, hein, où il y a de la germination, il faut utiliser des métaphores, là, il se passe quelque chose qui est de toute autre nature. Alors, j'ai mentionné Hugo tout à l'heure, par exemple, il y a certains textes de Hugo qui sont absolument fascinants de ce point de vue. Si l'on prend un roman comme Les Travailleurs de la mer, par exemple, hein, avec toute son histoire assez particulière, pour moi, les passages les plus passionnants sont les passages les plus abstraits de Hugo. Ceux où il décrit, où il essaie de décrire le mouvement de l'eau, hein, les sons, hein, ce qu'on entend, au large, hein, lorsqu'il décrit les mouvements de l'air, hein, ce qui a lieu lorsque il y a de l'orage, de la pluie, etc., les vents, et ainsi de suite. Alors, il y a là toute une série d'objets dont on voit très bien que Hugo s'efforce de leur donner une dimension qui n'est pas juste une dimension poétique. Hein, il ne s'agit pas de décrire la beauté de l'orage sur la mer. Hein. Il s'agit d'essayer d'utiliser ces objets-là pour comprendre des choses pour lesquelles on n'a pas de savoir, c'est pas, sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Là, si on rapporte ça, si on le contextualise par rapport à ce qu'a été, par exemple, le développement de la mécanique des fluides, c'est pas, au XIXe siècle, on se rend compte qu'il y a Il faut le manier avec une certaine prudence, hein, ce terme, mais il y a une certaine anticipation de la part de Hugo. Il y a un langage, là, un langage de l'écriture, qui est capable de cerner des phénomènes, hein, pour lesquels il n'y a pas de savoir formalisé, hein, qui n'est pas conceptualisé, hein, dans le cadre d'une science instituée à ce moment-là. Alors, lorsqu'on trouve des textes comme cela, hein, on sent bien, là, qu'il y a en effet une contribution proprement cognitive et au-delà même épistémique, c'est-à-dire dans la mesure où elle construit quelque chose qui est de l'ordre du savoir, hein, un savoir qui va pouvoir par ailleurs être formalisé. Alors, on pourrait dire la même chose avec des savoirs moins éthérés, hein, et moins rapportables à des évolutions scientifiques ultérieures. C'est vrai lorsque Balzac essaie de construire une théorie de l'histoire moderne, par exemple. Hein, c'est avec toute l'élaboration de la fiction que Balzac essaie de dénoncer des lois. Alors, il est évidemment influencé lui-même par l'idée que l'on se fait de ce que doit être une science, hein, bien sûr, au moment où il écrit, mais il essaie d'identifier des lois pour lesquelles, hein, il n'y a pas de contrepartie scientifique. Lorsqu'il invente la thermodynamique de la richesse, par exemple, avec la circulation de l'argent entre la province et Paris, par exemple, hein, vous savez, donc toute la richesse qui est produite en province, richesse à la fois matérielle, financière, mais humaine aussi, qui est absorbée par Paris, qui le transforme, le broie et renvoie les résidus, hein, vers la province. Il y a toute une circulation là qui est absolument parallèle à ce que la thermodynamique décrira ultérieurement. Or, au moment où Balzac écrit, ce qui fait le fond, le point de départ de ce qui deviendra la thermodynamique au sens scientifique du terme à la fin du siècle, tout ce fond-là est encore purement descriptif. Hein, on observe des machines à vapeur. Hein, on ne comprend pas comment elles marchent. Hein, c'est l'une des grandes interrogations du 19e siècle. Hein, une machine à vapeur, ça marche. Ça ne marche pas comme on pense que ça devrait marcher. On n'arrive pas à avoir un rendement parfait, par exemple. Bon, mais il faudra attendre la fin du siècle, hein, pour que, à partir des pures observations descriptives, hein, on ait une théorie qui soit une vraie théorie de l'énergie, hein, des échanges énergétiques, hein, et donc avec tout ce qui va ensemble. Or, cette théorie, elle est là chez Balzac. Elle est là chez Balzac, qui, lui, la voit agir comme un moteur, c'est pas par hasard qu'on a repris cette expression, hein, comme un moteur de l'histoire. Hein, l'histoire des sociétés humaines, hein, c'est une histoire thermodynamique. Évidemment, Balzac ignore ça. Il y a aussi beaucoup d'autres exemples chez Balzac où il y a une anticipation épistémique. Il y a des passages d'Illusion perdue. C'est l'un des grands, à mon sens, c'est un des grands textes épistémologiques, hein, des 19e siècle. Je sais que tout le monde l'a étudié, je crois, pour cause de concours, hein, il y a peu. Et donc là, je crois que je me réfère à quelque chose que tout le monde connaît. Il y a des dimensions réellement épistémologique lorsque Balzac réfléchit lui aussi par exemple sur le courant, sur la mesure des flux, hein, lorsqu'il médite sur ce qu'on devrait apprendre, sur ce que cache de savoir pas encore formulé dans la chute d'une feuille, par exemple. Alors là, c'est pas du tout l'image romantique, c'est pas la chute des feuilles renvoyant au temps, et ainsi de suite. Non, pas du tout. Ce qui l'intéresse, Balzac, c'est le fait qu'il y a là un mouvement non linéaire. N'est-ce pas ? Un mouvement non linéaire qu'on ne peut pas donc ramener à la mécanique classique. Et comme par hasard, la description, n'est-ce pas, du mouvement de la chute d'une feuille, ce sera l'un des points centraux, n'est-ce pas, de la théorie des créodes et des catastrophes, hein, donc une théorie mathématique formulée au XXe siècle. Bon, alors il y a comme ça beaucoup de choses. Chez Balzac, il y a aussi tout un appui sur la chimie, par exemple, qui va très au-delà de ce que la chimie est capable de dire au moment où il écrit. Alors je ne veux pas en faire trop dans ce sens, hein, et je ne veux pas dire que la littérature, hein, peut être ou est toujours prémonitoire, préfigurative ou anticipatrice, mais il est clair qu'elle peut désigner, hein, des lieux problématiques, hein, des lieux de non-savoir ou de savoir non encore formulé, non encore advenu, des choses qu'il faudra comprendre à un moment donné, hein, et qu'elle donne à comprendre avec ses moyens à elle.
Ouais, si je puis, c'est tout à fait passionnant, mais j'ai une interrogation quand même.
Oui.
Elle porte sur la notion de pacte. Je me demande, bon, en vous écoutant, dans quelle mesure une anticipation peut-elle faire l'objet d'un pacte ?
Ah, c'est fondamental.
Oui, mais si bon, parce qu'un pacte suppose un engagement réciproque. Je veux dire, on voit bien ce que veut dire pacte dans le cas du pacte autobiographique, hein, puisque c'est un engagement qui est sur de type juridique en fait. Hein. Sur quoi le jeune s'appuie. Mais je perçois, lorsque vous dites pacte épistémique, pardonnez-moi, et c'est pas du tout une interrogation, hein, comme lorsque vous dites pacte épistémique, j'entends le mot prendre une couleur légèrement métaphorique, beaucoup plus nettement métaphorique en tout cas, que dans pacte autobiographique, dans lequel, je dirais, le cadre d'intelligibilité de la notion même de pacte ne me pose pas le même type de problème.
Bah, évidemment, je déplace un peu hein, la notion, ça va de soi. Mais je pense qu'elle est, elle est valide et elle fonctionne. Dans la mesure, par exemple, on peut lui donner une forme un petit peu plus élaborée, oui. si l'on décide d'accepter que ce qui est en jeu, hein, c'est ce que moi j'appelle une plus-value cognitive. Hein. Donc, l'approche d'un texte hein, est composée de toutes sortes d'attentes, bien entendu. L'une de ces attentes porte sur cette plus-value cognitive. Plus-value cognitive qui peut être sur une échelle, c'est vrai, que l'on peut normer jusqu'à un certain point, cette plus-value cognitive, elle peut varier, là je parodie un petit peu le langage scientifique, elle peut varier de zéro à l'infini. Hein. Et je crois que c'est un des moyens justement que l'on peut utiliser pour décrire des différences génériques peut-être. Hein. Hein, ou des différences de type littéraire. Le lecteur ou la lectrice, puisque c'est souvent une lectrice, ouvre un roman de type Arlequin, par exemple, le pacte épistémique qui est en jeu est très clair. Ce qu'on en attend, c'est zéro, point de vue de la plus-value cognitive. C'est précisément parce qu'il n'apporte rien, hein, qu'il n'apporte aucune inquiétude, pas de déstabilisation, pas de remise en cause de ce qu'on sait, que le roman va être réussi, que le pacte va être comblé. Hein. On n'en attend rien, il ne fournit rien, hein, et par conséquent, c'est réussi. Donc ouais. Là, c'est le fond du contrat.
Ouais. Dans ce cas-là. Mais la notion de plus-value cognitive, elle s'applique parfaitement au vieux principe de connaissance, d'amélioration de la connaissance du cœur humain, par exemple. Mm-hmm. La littérature améliore notre connaissance du cœur humain dans la perspective dans laquelle vous l'indiquez. Ça peut porter le nom de plus-value cognitive, vous en êtes d'accord ?
Oui, tout à fait. Donc,
alors, en quoi, quelle est la spécificité à ce moment-là de ce qui relèverait, je veux dire, du rapport ? Est-ce que c'est un autre type de discours de savoir ? Vous voyez, je veux dire, je m'interroge quand même sur le... Parce que lorsque vous dites plus-value cognitive, ça implique que ce que le texte va apporter, c'est un enrichissement de notre savoir... Et donc, les objets de connaissance qui sont introduits dans le texte sont traités, je dirais, sur un fond d'esprit de sérieux, et que le contrat porte précisément, comme un contrat un peu grisséen, si vous voulez, hein, il porte sur une sorte de principe de coopération épistémique. Hein, c'est comme ça que vous l'envisagez ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois que ça peut se soutenir. Ce qui peut varier, en revanche, c'est le degré de sérieux de ce savoir. Et c'est là, évidemment, où la fiction est capable de faire quelque chose que la science ne peut pas faire. Hein, puisqu'elle peut s'intéresser à des objets de savoir qui peuvent être parfaitement dérisoires. Hein. Si l'on regarde, par exemple, ce qui se passe chez Proust, hein, l'une des choses qui, moi, m'y intéresse beaucoup, c'est que les objets de savoir ou la plus-value cognitive que le texte de Proust introduit portent tantôt sur des choses absolument minimes, complètement secondaires, ou en tout cas apparemment secondaires, et par ailleurs portent aussi sur des choses qui sont à la frontière de ce qui était connu. Donc des choses vraiment fondamentales. Alors j'ai pas besoin de répéter ici ce qu'on dit sur le temps, évidemment, sur ce qu'on a appris sur la nature du temps, mais sur quantité d'autres choses aussi, y compris d'ailleurs sur les sciences. Il y a une réflexion proprement scientifique chez Proust. Alors le spectre est très large. Et les objets peuvent être plus ou moins sérieux ou plus ou moins dérisoires, le pacte, lui, je crois, l'est toujours. Alors, bien entendu, comme pour tous les pactes, toutes les attitudes sont possibles, toutes les postures sont possibles, et le lecteur est sans cesse en train de jouer aussi avec ça. Pour moi, il est tout à fait indispensable.
Non, mais je pense que Michel Murat voulait dire, c'est que tout grand texte littéraire a une plus-value cognitive si on introduit dans le champ de la connaissance qui relève de l'expérience. Peut-être la distinction, elle se fait parce qu'on parle... Et tu parles essentiellement de textes qui sont des textes du 19e siècle qui entendent dire quelque chose sur la nature et pas seulement sur la conscience intérieure. Parce que si on inclut dans un champ extrêmement vaste le domaine de la psychologie humaine, tout texte, tout grand texte littéraire, même sans l'expliciter, met en œuvre de la plus-value cognitive à ce titre-là.
Oui, bien sûr.
Et là, on est dans le domaine très très général des savoirs du littéraire.
Oui, bien sûr. Bien sûr, mais ils peuvent se spécifier. Ce qui m'intéresse, c'est de les spécifier, c'est-à-dire de ne pas se tenir à une idée généralisante de ce que, dans une version, disons, assez euphorique, la littérature, en effet, nous édifie. Non, elle va beaucoup plus loin que ça et elle y va sur des terrains qui sont des terrains peuvent être non aperçus par la critique et la lecture traditionnelle.
Je vois qu'il y a des questions. Deux questions émergent de la salle, s'il vous plaît.
Oui, des objections.
Non. Quand vous parlez de rapport entre littérature et savoir, les sciences, donc je n'ai pas bien compris s'il faut inclure si vous parlez des sciences exactes ou s'il s'agit de prendre en compte les sciences en général et donc même les savoirs. Par exemple, vous venez de mentionner Proust et donc les savoirs, par exemple, anthropologiques, les savoirs ethnologiques et sociologiques qui Proust pouvait tirer de ses contemporains.
Oui, alors... Moi, je parle des savoirs,
pas des sciences.
Enfin, Hugues a dit des sciences, mais les sciences ne sont, d'une certaine manière, quand on les envisage à partir du point d'observation qui est celui de l'analyse littéraire, les sciences sont des savoirs comme des autres, si j'ose dire, dans la mesure où ça se traduit par de la connaissance, bien sûr, et ça se traduit par des mots, ça se traduit par des discours, par des métaphores, et ainsi de suite. Donc là, savoir et sciences sont en quelque sorte sur le même plan. Mais je ne vise pas de façon spécifique les sciences, même si j'ai étudié un certain nombre de cas où, en effet, les textes proposent une certaine relation avec ce que l'on peut identifier comme des sciences. Généralement, d'ailleurs, des sciences du passé, évidemment. Là, il faudrait que je fasse une parenthèse, bien sûr, sur ce qu'est notre capacité d'identification du scientifique. Le lecteur littéraire moyen, aujourd'hui, parmi lesquels je me situe, est capable de suivre un texte scientifique jusque dans les années 1870-80, peut-être. Après, ça devient plus compliqué, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, il y a là tout un ensemble d'éléments qui ont une dimension épistémique, mais qui, en effet, sont catégorisés de façon très variable. Alors, tantôt donc, comme des savoirs, tantôt comme des sciences, qui elles-mêmes doivent être très, évidemment, très, très distinguées, tantôt comme des pseudo-sciences. Tout à l'heure, on mentionnait Artaud, et moi, j'ai étudié des gens qui font un usage manifestement non scientifique des savoirs linguistiques. Des gens comme Brisset, par exemple. Alors, il y a là quelque chose qui répond à un impératif scientifique, mais il est manifeste que l'usage n'est pas scientifique. Ce qui est produit, c'est ce qu'on appelle classiquement une pseudo-science. Alors, l'histoire Hein, l'histoire cognitive est beaucoup plus fertile en pseudo-science qu'en vraie science. Et là, on s'engagerait sur un terrain extrêmement délicat lorsqu'il s'agit de distinguer, parce que, comme vous le savez, il y a des pseudo-sciences qui sont devenues des sciences, il y a des sciences qui sont devenues des pseudo-sciences. Il y a des façons de dériver là, qui, évidemment, renvoient à l'historicité propre des savoirs. Et cette historicité propre des savoirs, elle est intimement liée à leur capacité de produire de la littérature ou de ne pas en produire, d'y entrer, de ne pas y entrer, de la traverser ou de rester à côté.
Excusez-moi de revenir sur la question de M. Morat et d'Alexandre. En fait, s'il n'y a pas de spécification, et c'est la force justement du parc épistémique, est-ce que du coup il ne risque pas de se diluer dans quelque chose de plus large comme un horizon d'attente?
Oui, alors, bon, vous m'embarrassez un petit peu, là, évidemment, parce que cette notion sur laquelle a insisté Hugues, c'est une notion, pour moi, un peu périphérique. C'est-à-dire, j'ai pas beaucoup réfléchi ni approfondi cette question de pacte épistémique. Ça m'a semblé nécessaire, parce que, justement, comme vous le dites, on ne peut pas, évidemment, dissocier l'effet cognitif de l'effet de réception, donc d'horizon d'attente, nécessairement. Alors, c'est un peu à ça que je faisais allusion tout à l'heure en parlant de degré zéro à propos du roman Harlequin. Il y a à la fois un horizon d'attente qui est parfaitement déterminé, et cette attente est vide, en quelque sorte, et elle est comblée parce qu'elle est vide. On peut jouer avec ça. Alors, oui, bien entendu, je crois qu'il faut il faut rapporter ça à cette question. Maintenant, il faut essayer de, à partir de là, de caractériser, encore une fois, ce qu'il y a de singulier dans chaque cas. Parce que il me semble que c'est très différent, si on examine Flaubert, par exemple, très différent d'étudier ce que peut être l'horizon d'attente vis-à-vis de Bouvard et Pécuchet, par exemple, ou vis-à-vis de l'éducation sentimentale. Et pourtant, il y a là un effort qui est un effort qui a une certaine homogénéité chez Flaubert depuis le début. C'est un effort pour rendre quelque chose intelligible, pour donner un sens à ce qui apparemment n'en a pas, ou à aller chercher le non-sens là où il y a un apparent débordement de sens. Donc là, il faudrait, effectivement, dans chaque cas, étudier très, très précisément ce que peut être cet horizon d'attente. Ce qui me pose problème, évidemment, avec ça, c'est qu'il faut le construire, cet horizon d'attente. Et là, ça devient difficile. On revient peut-être au premier versant que mentionnait Alexandre, et que moi je décris comme celui de la description institutionnelle dans laquelle un discours apparaît. Discours littéraire apparaît. Et là, ça devient très complexe. Pour n'en donner qu'un exemple qui renvoie à ce que mentionnait tout à l'heure Hugues, l'horizon d'attente, par exemple, pour un texte scientifique, disons, des années 1830, 1830, 1840, quelque chose comme ça. Cet horizon d'attente, selon qu'on essaie de l'analyser en fonction de ce que nous repérons quant à la hiérarchie entre science et littérature, si on le repérait de cette façon-là, par rapport à ce qu'on repère quand on lit en effet ce qu'étaient les conditions de réception, là, on se retrouve devant des dilemmes. C'est pour ça que je disais qu'il y a en fait une double réception toujours. Notre horizon d'attente, nous le connaissons un peu, l'horizon d'attente de 1830, nous le connaissons moins bien, et en particulier pour ce qui est des rapports entre science et littérature. Ce à quoi faisait allusion Hugues, c'est un débat parlementaire qui a eu lieu en 1837, je crois, où se sont affrontées deux conceptions de l'enseignement. Il fallait refonder, comme on le fait depuis toujours, c'est pas d'aujourd'hui qu'on réorganise le système éducatif, et il fallait décider, en particulier, quel serait le poids relatif des sciences et des lettres. Alors là, il y a eu un immense débat avec pas n'importe qui, donc se faisant face, Lamartine, qui était un représentant. Il y avait des gens bien à cette époque, au Parlement. Donc Lamartine pour les lettres, Arago pour les sciences. Et alors, j'aime beaucoup citer cette phrase d'Arago, qui, alors Lamartine faisant tout un numéro tout à fait pathétique, disant si on abandonne des choses comme le thème latin, la dissertation, enfin là je brode un petit peu, ça va être la fin de la civilisation. En gros, c'est ce que disait Lamartine. Il disait d'ailleurs, je préférerais de loin, n'est-ce pas, qu'on abandonne tous les savoirs, les sciences, etc., plutôt que de laisser une bribe, c'est pas, de la culture littéraire. Alors en face de lui, il y avait Arago qui lui a répliqué, hein, ça n'est pas avec des alexandrins qu'on extrait du sodium, du sel marin. Alors, lui-même faisant évidemment des vers pour la circonstance. Hein, et là, on a eu une polarisation très forte. Hein, on voit bien que l'horizon d'attente, c'est pas, était complètement déstabilisé en quelque sorte. Surdéterminé ou sous-déterminé par cette opposition qui n'était pas réglée, puisque d'un seul coup, hein, la hiérarchie qui était acceptée était en voie de renversement. Alors, que se passe-t-il, n'est-ce pas, quand on lit Balzac, hein, vers 1838, si l'on est du côté Lamartine ou du côté Arago, hein, le statut de la réflexion proprement cognitive et proprement épistémique de Balzac, hein, prend un sens absolument différent. Hein. Alors, l'une des réceptions va censurer carrément des délires pseudo-scientifiques de Balzac, hein, et une autre va au contraire dire attention, il se passe quelque chose là, hein, qui nous aide à penser autrement. Mais d'une manière générale, tout ceci pose, je voudrais insister plus là-dessus, ça pose la question du statut des métaphores. Hein. Là, évidemment, évidemment, on doit y venir.
Est-ce qu'on peut, avant d'arriver oui. au statut des métaphores, donner la parole à la jeune fille
oui, pardon.
Avec le pull vert blanc?
Oui, elle s'est lassée de lever le doigt.
Pour revenir à la question de Flaubert, je pense qu'il est très important de souligner, à mon avis, donc je ne dis pas que j'ai raison, je pense que Flaubert lui-même joue avec ce pacte en fait, épistémique. Et il veut prouver, entre guillemets, bien entendu, et je pense qu'il faut savoir que Flaubert vise à désigner que ce pacte repose sur une question d'autorité absolument irréelle. Et je pense que c'est une limite très importante dans la littérature et dans la modernité, et puis après donc dans l'écriture, donc à la fin du XIXe siècle, eh bien donc la recette reste pour les écrivains à venir. Et je pense que Flaubert en fait montrait à quel point cette autorité est absolument irréelle. Et donc ce pacte épistémique que nous prenons donc, dans un état un peu tout fait, je dirais, repose sur cette question d'autorité. Et je pense que nous sommes très précipités à le prendre tel qu'il est, et quand nous revenons à l'examiner, on se rend compte que finalement, il y a une question d'autorité irrésolue dans cette notion même du pacte.
Oui, je serais évidemment assez d'accord avec vous là-dessus. Mais évidemment, ça peut se jouer de toutes sortes de façons. Et l'autorité en question, elle peut être différentielle. Quand vous examinez Bouvard et Pécuchet, par exemple, hein, vous travaillez dessus. Bon, il y a évidemment des autorités différentes, hein, que Flaubert manifestement reconnaît. Hein, de façon différentielle à des savoirs différents et à des sources différentes. Bon, lui-même, lorsqu'il élabore son matériau documentaire, hein, il le fait à partir de sources auxquelles, d'emblée, il reconnaît des autorités différentes. Hein. Il y en a qui sont parfaitement solides, hein, on voit bien à travers ses carnets, ses notes, etc., hein, ses commentaires. Il y en a qui prend comme des choses solides, et à ce moment-là, lorsqu'elles sont solides, bien sûr, Bouvard et Pécuchet vont les méconnaître tout à fait. D'autres manquent profondément de solidité, et là, il va y avoir des doutes. Hein. Le texte va être beaucoup plus problématique. C'est très clair, par exemple, lorsque d'un côté il y a de la chimie, par exemple. Flaubert ne met pas en doute l'autorité des chimistes. Et de l'autre côté, lorsqu'il est question des tables tournantes, par exemple, et du magnétisme. L'échec de Bouvard et Pécuchet, lorsqu'ils manipulent la chimie, est flagrant, sans appel, c'est clair, on voit bien pourquoi. Mais lorsqu'ils manipulent les tables tournantes, il reste un doute, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et Flaubert laisse faire qu'il se passe quelque chose. Bon. Alors là, vous voyez, je crois qu'on peut en effet reprendre ce que vous dites à propos de l'autorité, mais je crois qu'il faut voir que Flaubert lui-même, mais comme tout le monde, accepte de façon différentielle des sources d'autorité. Et lui-même joue souvent un double jeu par rapport à ça. C'est-à-dire que il lui arrive aussi de contester les autorités qu'il reconnaît, par ailleurs. Alors, si l'on revient à la question des métaphores, question particulièrement cruciale dans cette histoire, ou de façon générale, la question des images, mais alors là, on s'aventurerait dans un champ un peu plus large. Je voudrais essayer de cadrer ça pour essayer de poser donc la question de leur statut vis-à-vis de ce qu'il y a de cognitif ou pas, plus ou moins cognitif dans un texte. Je voudrais cadrer ça par rapport à la réflexion de quelqu'un qui n'est pas très à la mode, en tout cas chez les littéraires, je crois, c'est Bachelard. Alors, et là, c'est le... Mais attention, le Bachelard auquel je me réfère, ce n'est pas le Bachelard, justement, le Bachelard des littéraires, c'est le Bachelard épistémologue, historien des sciences. Alors, lui, il n'est pas très à la mode chez les littéraires, enfin, je crois, en tout cas. C'est curieusement, depuis que je me suis moi-même réintéressé à Bachelard épistémologue, je découvre en parlant avec des scientifiques qu'ils jurent tous par Bachelard, se proclament tous bachelardiens. Alors, c'est un peu inquiétant, ça, mais je ferme cette petite parenthèse. Il y a des choses tout à fait importantes chez lui, là, et qui, d'ailleurs, doivent nous amener à réfléchir sur la relation entre les deux Bachelards.
Oui. Hein.
Il y a toute une première méditation chez Bachelard à propos de l'histoire des sciences sur la, si je veux dire, sur la nocivité des métaphores, la nocivité des images. Les images, pour Bachelard, donc les métaphores, il le dit explicitement, les métaphores empêchent de penser, sont des obstacles à la pensée. Alors, la notion d'obstacle épistémologique que Bachelard a formulé est répandue partout, donc ça vous la connaissez certainement. Mais ce qui est intéressant dans cette notion, c'est que dans une large mesure, elle reprend de manière implicite d'ailleurs, elle reprend ce que Bacon avait formulé dans le Novum Organum à propos des idoles. Ce que Bacon appelait des idoles, c'est-à-dire des espèces de représentations non interrogées. Alors, vous savez, il y avait des idoles de la tribu, c'est-à-dire des présupposés collectifs, en quelque sorte, non interrogés. Il y avait des idoles du forum, celles qui concernent tout ce qui est implicite dans la langue, parce que la langue nous impose sans qu'on s'en rende compte, par exemple. Les idoles du théâtre, ça c'est tout ce qui est la rhétorique, tout ce qui est la mise en forme, le système, et ainsi de suite. Bon, pour Bacon, tout ceci formait des obstacles à la pensée. Et chez Bachelard, on trouve la même idée, l'idée d'obstacle épistémologique, distribuée de la même façon que chez Bacon, sont des obstacles à la pensée. Alors, ça c'est tout à fait intéressant, parce que Bachelard montre comment, ça c'est dans un essai que je vous recommande, c'est une étude de la formation de l'esprit scientifique, Bachelard montre comment il y a eu un progrès de la rationalisation, un progrès de la rationalité. Lui-même discute ce qu'il veut dire par rationalité. C'est un rationaliste d'un genre un peu particulier, Bachelard. Mais en tout cas, donc il y a eu un avancement, une avancée de la rationalité, parce que on a pu vaincre un certain nombre de ces obstacles épistémologiques, et en particulier l'obstacle venu de la métaphore. Alors il y a de très beaux exemples que donne Bachelard. Il y a un texte assez classique, sans doute certains d'entre vous le connaissent, hein, Information d'esprit scientifique, c'est celui qui porte sur l'éponge. Alors ça, c'est tout à fait fascinant, parce que Bachelard montre très bien comment, depuis les scientifiques grecs jusqu'à Descartes et au-delà, hein, jusqu'à Réaumur, donc entre le XVIIIe et le XIXe siècle, hein, c'est, la métaphore de l'éponge, hein, a eu un impact épistémique, hein, un impact cognitif profond. Ça a permis de penser un certain nombre de choses. Hein, imaginer l'éponge, hein, qui permet de se déformer, d'imprimer, d'imaginer la pénétration de milieux différents. Enfin, bon, y a toutes sortes de choses que ça permet de se représenter. Mais en même temps, ça permet d'avancer jusqu'à un certain point. Mais en même temps, ça bloque la pensée. Dans la mesure où cette image est tellement forte, enfin, le contenu cognitif de cette image est tellement fort, que ça a interdit de se poser des questions telles que, par exemple, l'exige la mathématisation des flux dans des milieux poreux, par exemple. Donc, il a fallu partir de là, mais en même temps, parce que ça amenait un défi cognitif, il a fallu partir de là, mais en même temps vaincre ce que ça proposait pour aller au-delà et produire une connaissance véritable. Alors, ce double statut de la métaphore, je crois, est intéressant pour nous également, hein, quand nous traitons des questions littéraires. Et c'est évidemment ce qui était en jeu dans l'affaire Sokal, hein, dont tu parlais. Hein. Il y a ce double aspect, hein, de la métaphore, qui est une machine à faire penser, hein, d'un côté, mais qui est en même temps une machine à nous tromper. Hein. Une grande partie de ce qu'elle nous propose, hein, nous éclaire, mais en même temps produit de la méconnaissance. Hein. Là je renvoie pour une réflexion littéraire sur la question à Proust. Hein, hein, Proust qui formule une véritable théorie de la méconnaissance. Hein, et donc du faux savoir, hein, du mélange du vrai et du faux savoir, etc. Lorsque Proust, par exemple, décrit, analyse le mécanisme de la jalousie chez Swann, hein, il en parle comme d'une démarche scientifique. Hein, et là, le parallèle est rigoureusement poursuivi par Proust. Hein, la jalousie est une épistémologie. Certaine manière. Hein. Bon, alors, la méconnaissance est l'un des moments nécessaires de cette démarche-là. Alors, là, on voit comment la métaphore n'est pas simplement quelque chose qui condenserait, en quelque sorte, un savoir, soit un savoir préalable, soit un savoir en formation. C'est quelque chose qui a un double visage, hein, et qui nous renvoie à la réalité de la dynamique de la connaissance, telle que l'a décrit Bachelard. C'est une connaissance imaginante, hein, c'est un acte imaginant, hein, celui de la connaissance, mais qui doit se défier, bien entendu, de ce que l'image, hein, apporte, hein, à la fois richesse, puisqu'elle réorganise la connaissance, elle permet de donner une forme à ce qui est informe, hein, mais en même temps, évidemment, elle nous trouble. Les scientifiques contemporains, hein, les nôtres, si j'ose dire, ont joué ce jeu-là à fond. Hein. Tu parlais tout à l'heure, hein, des séances d'élaboration lexicale. Hein, et en effet, il y a toute une stratégie, hein, des appellations, hein, qui est souvent concoctée, hein, comme ça, en commun, par le groupe des scientifiques. Alors, il faudrait parler aussi du collectif, hein, dans tout ceci. Traditionnellement, hein, évidemment, la nouveauté ou la novation conceptuelle, elle se disait en grec ou en latin. Hein, langue des savoirs, langue neutre, hein, qui permettait de distancier, hein, la nouveauté par rapport à l'ancien, incarné par la langue qu'on possédait déjà. Chez les scientifiques contemporains, la stratégie est inverse. Hein. Elle consiste à donner des noms aussi communs que possible, hein, à des choses qui sont inimaginables. Entre parenthèses, chez Bachelard, il y a aussi de très beaux moments où il décrit ce passage, hein, où on quitte, hein, le savoir, que l'on peut imaginer, enfin, des objets de savoir que l'on peut encore imaginer, pour entrer dans la zone où les objets de savoir sont inimaginables. C'est le cas, dit-il, il dit ça des années 30, c'est le cas, dit-il, des particules élémentaires, ce qui compose le noyau atomique. Le noyau atomique est inimaginable, dit Machin. Or, c'est précisément ce que les physiciens des années 70-80 cherchent à figurer au maximum, hein, en parlant des particules charmées, des particules étranges, etc. Il y a tout un langage qui nous remplit de satisfaction, hein, nous les profanes, parce que nous avons des images à nous mettre sous la dent, hein, si je puis dire, et nous avons là le sentiment de la connaissance. Hein. C'est le cas, c'est évidemment généralement en physique, hein, que ces choses-là ont lieu. On ne parle pas des mathématiques, hein, même si les mathématiques ont joué un grand rôle dans ce changement stratégique, hein, avec la théorie des catastrophes, hein, par exemple, hein, ou la théorie du chaos, hein, qui sont des formidables agents provocateurs de l'imaginaire, hein, bien sûr. Mais dans la physique, donc, c'est surtout autour de la physique atomique que ça s'est passé. C'est vrai aussi avec la cosmologie, hein, la notion du Big Bang, hein, que tout le monde connaît, hein, qui est une notion totalement fausse. Hein, c'est une image, hein, qui nous donne le sentiment qu'on comprend, hein, qu'à l'origine de l'univers, il y a eu une explosion. Hein, mais évidemment, ça ne correspond à rien par rapport à ce qu'est le contenu, hein, de cette notion réellement. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard non plus que cette expression a été forgé par quelqu'un qui n'y croit pas à cette théorie. Enfin, alors c'est ça qui est le paradoxe quand même assez, assez formidable. Alors, donc, si je reviens à mon point de départ, la métaphore, donc, il n'est pas clair que nous avons affaire à un objet, là, qui est un objet qui a une portée cognitive, hein, nous connaissons par les métaphores. Mais cette connaissance est très largement aussi une méconnaissance ou une fausse connaissance. Et la littérature, hein, lorsqu'elle s'en sert, lorsqu'elle se sert de métaphores, hein, elle est capable de traiter tous les aspects, hein, de ce rapport trouble à la connaissance. Il y a certainement des moments où elle nous donne accès à quelque chose que nous ne savions pas. Je mentionnais donc le cas de Hugo, et il nous fait voir, il nous fait comprendre que tous les mots qu'il utilise pour décrire le vent renvoient à quelque chose d'autre que simplement ce que la poétique classique en disait, par exemple. Hein. Mais il y a beaucoup d'autres exemples que l'on pourrait donner. Il y a donc une échelle, il y a des gradients différents de connaissances qui sont apportés par les métaphores. Et je crois que c'est là, bien sûr, que se joue l'efficacité épistémique, l'efficacité cognitive, hein, de la littérature. Mais encore une fois, hein, je reviens à ce que je disais à propos de la singularité, hein, c'est nécessairement dans chaque moment, hein, d'invention d'une métaphore, hein, chaque moment où une image va être filée, hein, que va se jouer en effet sa capacité à produire quelque chose, à produire cette plus-value cognitive, hein, que j'essayais de pointer tout à l'heure. Un vaste détour pour parler de métaphore. Ouais, oui.
Je m'interrogeais en vous écoutant, ça, c'est un sujet magnifique, hein, et puis merci d'avoir dit qu'il faut réunifier les deux Bachelard. Je pense que on aura progressé le jour où on arrivera à comprendre pourquoi c'est le même homme qui a écrit L'eau et les rêves et la formation de l'esprit scientifique et pourquoi il l'a fait à ce moment-là et peut-être l'un après l'autre, etc. C'est un sujet très, très, très intéressant. Alors, je voudrais revenir sur l'histoire du latin et du grec. Vous avez commencé par dire, oui, à un certain moment, on est passé, les langues de la science étaient le latin et le grec, mais il me semble qu'il faut ajouter à ça que ce qu'on inventait, c'était une nomenclature qui avait une valeur de connaissance en tant que telle. Quand vous créez une classe d'insectes, enfin, quand vous nommez une classe d'insectes, elle s'inscrit dans une taxinomie existante. Je ne suis pas sûr que la notion de corde ou de particules charmées, etc., à l'heure actuelle, ait exactement le même statut. C'est-à-dire qu'il y a coexistence, en fait, dans le discours scientifique, de procédures de dénomination. qui sont à usage à la fois interne et externe, parce qu'en même temps, ces termes servent d'interface avec le public. Il ne faut pas oublier que les scientifiques ont besoin d'argent, donc ils ont besoin de mettre dans le circuit des termes compréhensibles et si possible suggestifs pour les gens qui financent leurs recherches. Et je dis ça sans aucune ironie, vous vivez de l'autre côté de l'Atlantique, vous êtes bien...
C'est une réalité de tous les jours,
quotidienne. Donc on a besoin, pour à des usages à la fois internes et externes, d'un certain nombre de dénominations courantes des phénomènes sur lesquels on travaille. Mais ces dénominations sont complètement séparées des procédures de validation, à la fois sur le plan épistémologique et sur le plan institutionnel. Alors que quand on est dans le domaine littéraire, justement, ces séparations n'existent pas. Dans le domaine littéraire, il n'y a pas de validation hors l'institution. La littérature est elle-même son institution, il n'y a pas d'institution spécifique, et il n'y a pas de validation épistémologique non plus de l'œuvre littéraire qui lui soit externe. Il ne peut pas y en avoir qui lui soit externe de la même façon. Est-ce que comment tenir compte de ce différent phénomène? Moi, ce qui me frappait dans les exemples qu'avait cité Hugues là, les chiasmes, les biologistes parlent des chiasmes. Bon, mais enfin, ce qui m'étonne là-dedans, c'est le chiasme, c'est quand même une figure assez simple. Comment se fait-il que les généticiens qui travaillent sur des objets ultra complexes aient vraiment besoin de ces gadgets pour nommer des figures relativement simples? C'est des structures ou des gestalt, enfin, ou des formes relativement simples. Qu'est-ce que ça leur apporte, sinon le plaisir de... Enfin, certains plaisirs de la dénominer.
Moi, je pense que là, c'est un sens là-dessus, c'est un travail d'économie. Ils ont reconnu, sans doute, quelqu'un a reconnu avec une formation, une vague formation de poéticienne, et donc la domination qui a été choisie est celle-là. Mais ça donne, en fait, c'est cohérent, c'est logique, j'allais dire, qu'ils soient allés chercher cela dans tout le paradigme, en fait, de textualisation du corps, qui est celui de la génétique. Mmh. On parle de bibliothèque, de transcodeur, de message, etc. Donc, c'est dans le... Assez logiquement, il y a fait tout le... On a une métaphore filée énorme, qui fait qu'on va privilégier tout élément se rapprochant du texte, en fait. Et je crois aussi qu'il y a autre chose, c'est qu'au moment où ces termes apparaissent, ils apparaissent souvent à un moment d'incertitude de la part des scientifiques qui eux-mêmes ne sont pas sûrs de ne pas avoir affaire à des fictions encore, parce que généralement ils nomment au moment où ils sont encore en train de créer un de ces mondes possibles dont parle Jacob.
Mais ça n'a rien à voir avec la littérature, c'est un usage du langage, un champ linguistique spécifique.
Oui, mais c'est aussi dans le... J'avais renvoyé à cela, parce que pour expliquer que ce jeu, de même manière que des métaphores scientifiques sont inscrites dans le texte littéraire ou dans le texte sur la littérature, c'est vrai qu'une partie de ce que je disais, c'est aussi, enfin moi je c'est un peu, on peut pas séparer aussi nettement production d'un savoir. Il y a une partie de la littérature.
Il y a des moments où on peut dire que la littérature peut aider les scientifiques à configurer leur représentation. Pour la cosmologie, on peut, les un certain de cosmologues se critiquent entre cosmologistes, se critiquent entre eux, parce qu'ils se traitent de littéraire, d'utiliser des procédés idéologiques, d'avoir un présupposé idéologique. Donc ce sont des cas où la littérature, effectivement, joue un rôle. Pour ce qui est de l'usage terminologique, c'est moins évident, c'est simplement ça.
Oui, mais parce que je pensais, peut-être que j'ai pas été clair, je pensais aussi à cet aspect de la littérature, qu'est la métalittérature, en fait. Que dans la littérature n'est pas, enfin je crois que ça serait un petit peu simpliste de dire que là, enfin qu'on a, qu'il n'y a pas de concurrence du vrai ou de souci de validation, etc. dans le champ du littéraire, parce que toute la réflexion métalittéraire est pour une large part, en fait, les arts poétiques sont-ils ou non, par exemple, encore de la littérature ou déjà de la littérature à distance, il y a cet ensemble-là où en fait on trouve cette circulation très souvent. Le chiasme n'est pas un objet proprement littéraire, c'est un objet du discours sur le littéraire et qui donne un exemple d'échange. C'était dans ce cadre-là.
Là, je crois qu'il faut faire attention. Il faut recontextualiser tout ça. Le chiasme est un bon exemple de la très haute ancienneté de cette démarche. Il faut pas oublier tout à fait que le terme de chiasme est utilisé déjà par Aristote pour décrire à la fois les phénomènes linguistiques et littéraires et des phénomènes de l'organisme des animaux et des plantes. C'est comme ça qu'on continue à parler aujourd'hui du chiasme optique, par exemple, des nerfs optiques qui se croisent. Bon, c'est pas d'aujourd'hui qu'on utilise ce terme. Oui, c'est ça. Alors, toutes les notions qui ont été des notions importantes pour nommer l'organisation formelle hein, ça nous vient essentiellement d'Aristote, naturalisme aristotélicien, hein, qui nous pose qu'il se passe la même chose dans le langage et dans les animaux. Hein, d'où la notion d'articulation, par exemple, qui est tout à fait essentielle pour distinguer les espèces en entomologie, hein, et pour distinguer certaines structures dans la syntaxe. Alors, ce phénomène, hein, c'est un phénomène qui a donc une très ancienne histoire, hein, en effet, et ça n'est pas par hasard qu'il y a convergence, hein, dans le métalangage, hein, pendant un long moment de l'histoire des sciences, hein, et de l'histoire de la poétique et de l'histoire de la linguistique. Ce qui est en revanche intéressant par rapport à ça, c'est que à un certain moment, ça diverge. Hein. Aujourd'hui, hein, les cas que tu cites sont des cas rares. Il y a de moins en moins d'appellations qui peuvent fonctionner à la fois dans la science et hors de la science. Les processus de nomination, hein, sont désormais très différents dans les deux champs. Et il n'y a en effet que lorsqu'il y a un certain opportunisme stratégique, hein, que là, on retrouve, hein, une façon de nommer qui va du côté de la langue courante. Mais cette langue courante, ce n'est pas la langue savante. Hein, des littéraires. Hein. C'est une langue qui est souvent argotique. Hein. Les scientifiques d'aujourd'hui adorent, surtout en anglais, hein. Il y a encore une tradition chez les scientifiques français, hein, d'utiliser le grec ou le latin. Il y a eu tout un moment où gens comme René Thom, par exemple, s'était tout à fait excité. Il a écrit sur le sujet, pourquoi ne pas utiliser, hein, les racines grecques et latines pour dire ce que nous avons à décrire. Mais là, il était à côté de la plaque. Excuse-moi.
Non, sur l'idée d'un caractère assez globalement illusoire de la réciproque de l'usage de la littérature par les scientifiques, il me semble que là, Bachelard nous sert encore, parce que c'est précisément le fait qu'on n'arrive pas à concilier les deux qui compte, parce que Bachelard nous arrangerait comme littéraire pour suggérer que l'image produit du savoir, mais c'est pas exactement ça qu'il dit. Enfin, je vais essayer de parce que ça mélange plusieurs choses que j'avais envie de... Enfin, sur lesquelles j'avais envie d'intervenir. Les deux Bachelard parlent de deux temporalités différentes. La mauvaise image désignée par le Bachelard épistémologue, c'est l'image qui cristallise un préconçu. Donc c'est une image qui véhicule un état caduc du savoir, ou un état doxal du savoir, alors que la bonne image, c'est l'image qui se dirige vers un état futur du savoir. C'est le concept qui s'élucide. Et donc, disons, on n'arrive pas à résoudre le fait que on parle d'une, enfin, que l'image est mauvaise quand elle nous vient du passé. Et là, je repense au fait que tu disais qu'un texte scientifique bascule dans la fiction à partir du moment où il est scientifiquement invalidé. C'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire on garde l'image, mais on dévalide scientifiquement. Et l'image est bonne quand elle anticipe sur un savoir à venir, et donc elle est validée à contre-temps ou a posteriori par le scientifique à venir. Et disons, je voulais juste superposer ça avec le fait que il me semblait que dans la description que tu avais faite au début, en fait, un partage très très lourd continue à être fait entre littérature et science, puisqu'on avait le sentiment que la littérature disons s'immisçait là où la science n'était pas encore, et que c'est depuis un savoir scientifique postérieur qu'on peut désigner là une plus-value cognitive. Donc si nous on voit une plus-value cognitive dans tel ou tel usage par Stendhal des notions de chaleur, etc., c'est depuis un savoir scientifique postérieur. Et pardon, enfin, reprendre un autre fil, ce que disait Alexandre sur le savoir moral, en fait, c'est peut-être le seul qui soit immédiatement actualisé par la littérature, la plus-value de savoir éthique, et la seule qui ne se produise pas à contre-temps par rapport à la science.
Oui, certainement. C'est quelque chose à quoi je n'ai pas, réfléchi, hein. Mais en effet, il faudrait le faire. En revanche, sur ce que tu mentionnes à propos de cette temporalité étrange, hein, de la reconnaissance, oui, il y a des structures de rétroaction. Bien sûr, il y a les effets cognitifs sont liés souvent à la lecture différée ou à la relecture. Hein. Là, je m'appuie encore sur Bachelard d'ailleurs. Je ne sais plus où exactement il dit voilà, j'ai lu tant de livres, mais c'est maintenant qu'il faudrait que je les relise, hein, parce que maintenant j'ai commencé à comprendre ce qu'il y avait au point de départ. Hein. Donc il y a constamment, en effet, cette chose-là. Si l'on peut continuer à lire, hein, si on n'épuise pas les œuvres, hein, après la première lecture, c'est précisément parce que nous sommes constamment dans une temporalité qui nous écarte et qui apporte des choses différentes qui n'étaient pas là, que nous pouvons percevoir.
Ce qui est frappant.
Oui, je vais ajouter quelque chose là-dessus tout à l'heure. Vas-y.
Mais ce qui est frappant, c'est que c'est une rétroaction à perte, parce que le savoir produit ou anticipé ou commencé d'être élucidé par le texte littéraire, il est visible une fois qu'il est rendu caduc.
Pas toujours. Je crois que c'est plus distribué que ça. Il y a certainement un grand nombre de cas, n'est-ce pas, où ça fonctionne en effet comme ça. Et ce qui est à comprendre est souvent à comprendre ultérieurement, en effet. Mais il y a aussi des choses à comprendre comme... Il y a aussi des possibilités de comprendre dans l'immédiat. Tu vois, les textes ne sont pas opaques, ne sont pas purs. Et ce n'est pas seulement de la pure tautologie. Mais là, je crois qu'il faudrait. Excuse-moi, Alexandre, je veux ajouter quelque chose là-dessus. Là, je voudrais convoquer une autre notion que je tire du travail de Michael Polanyi. Ça te dit quelque chose? Polanyi, c'est à la fois un chimiste, un historien des sciences, un philosophe, etc., qui a construit une théorie que moi je trouve tout à fait intéressante. Un de ses livres porte un titre qui résume sa position. Ça s'intitule Personal Knowledge, donc le savoir personnel, la connaissance personnelle. Alors, c'est une notion qui me paraît intéressante parce que il l'oppose à la connaissance subjective. Hein. La connaissance subjective, le savoir subjectif, c'est quelque chose qui n'entraîne aucun test de validation, hein, du tout. Le savoir personnel, hein, il utilise cette notion pour décrire l'itinéraire cognitif du scientifique, hein, qui est quelqu'un qui construit une connaissance, mais qui a besoin de la comprendre également. Et ça ne va pas forcément de soi. Enfin, le scientifique, hein, qui construit quelque chose ne comprend pas forcément, hein, d'emblée ce qu'est le sens et le contenu de sa propre découverte. Il doit lui-même l'interpréter. Enfin, et pour l'interpréter, il a besoin d'une validation collective. Il a besoin d'un milieu. Il a besoin des autres pour ça. Son savoir, hein, donc ce qu'il a formulé, ne devient une connaissance personnelle, hein, qu'à partir du moment où ça a été mis en commun avec un certain nombre d'autres qui attestent du fait qu'il y a là, en effet, quelque chose à connaître. Alors, ça recoupe ce que Bachelard analyse. Hein, l'apport, hein, de connaissances, hein, qui nous vient de tel ou tel travail scientifique, hein, il ne commence à prendre sens qu'à partir du moment où il est partagé. Hein, ce qui resterait totalement singulier, hein, mais là au sens quasiment pathologique du terme, hein, n'est évidemment pas de la connaissance. Hein, il faut qu'il y ait ce partage, cette mise en commun. Alors c'est une notion d'ailleurs, enfin cette formulation, c'est dans les années 60 que Polanyi a formulé ça. Je crois que c'est une formulation très forte. Il fait une très belle description de certains mouvements dans l'histoire des sciences à partir de ça. C'est une notion qui a été en partie réinterprétée par Kuhn, qu'on connaît beaucoup mieux, hein, Thomas Kuhn, la notion de l'importance chez lui, hein, de la communauté, hein, pour valider le fait que quelque chose est de la science, hein, et que collectivement on décide que la science qu'on faisait jusque-là, c'est pas, doit être modifiée, Le fait de pouvoir accepter des prémices différentes, donc un cadre de référence différent, donc un paradigme différent, pour comprendre ce qu'il y a de nouveau à comprendre et qu'on ne comprend plus avec l'ancien paradigme, c'est quelque chose qui passe par quelque chose comme une sorte de pacte d'une communauté qui décide que c'est là qu'il y a à comprendre. Alors je crois que jusqu'à un certain point, c'est importable ou exportable dans le domaine de la littérature. Évidemment, il nous est toujours possible d'avoir une compréhension radicalement singulière de ce que nous disons. Je crois qu'on peut en citer des exemples. On peut lire, c'est dans le domaine des fous littéraires. On peut lire des interprétations parfaitement personnelles et délirantes de toutes sortes de textes, de la Bible jusqu'au journal de la veille. Les paranoïaques sont particulièrement forts pour ça. Jusqu'à un certain point, c'est ce que fait Artaud aussi, lorsqu'il donne une interprétation totalement, une lecture totalement singulière d'un certain nombre de textes. Mais il y a l'autre pôle, l'autre versant, mais je préfère voir ça en termes de gradient, où la connaissance, n'est plus une connaissance, si j'ose dire, idiote, pour parler comme Clément Rosset, il parle de l'idiotie, ce qui n'a pas de double, ce qui n'a pas d'image, ce qui ne peut pas se dédoubler. Donc, à côté de la connaissance idiote, il y a évidemment la connaissance personnelle, au sens de Polanyi, c'est-à-dire connaissance que je possède et dont le sens est validé par un groupe. Alors, au fond, c'est ce que nous faisons lorsque nous discutons des textes. Nous avons besoin d'être en communauté pour discuter des textes. Lorsque nous discutons Flaubert, pour nous mettre d'accord ou pas d'accord sur tel ou tel texte, ce que nous faisons, c'est donner une dimension personnelle au sens de Polanyi, dimension personnelle, à la connaissance que nous prenons du texte. Mais cette collectivité institutionnalisée, qui est celle de l'université, elle est aussi généralisée, elle est aussi virtuelle. Il y a une multitude de communautés qui se constituent autour des textes. Nous pouvons être, sans le savoir, des milliers à dire Madame Bovary d'une certaine façon, à y trouver une connaissance.
Oui, je voulais revenir sur la métaphore. Là, j'avais une idée qui me trottait dans la tête. Bon. À propos de la métaphore et du savoir, nous continuons à dire que le soleil se lève et se couche, c'est-à-dire que dans la langue, il y a une représentation cosmologique qui est celle du système ptoléméen, alors que nous savons très bien que nous avons intégré depuis longtemps sur un autre plan que c'est le contraire, que la Terre tourne autour du soleil, ce qui veut dire que il y a en même temps en nous plusieurs strates et plusieurs types de savoirs différents qui ne sont pas forcément d'ailleurs reliés les uns aux autres, c'est-à-dire qu'il y a des savoirs qui sont dans un état de méconnaissance par rapport à eux-mêmes, d'autres qui sont de l'ordre doxal, simplement comme des choses reçues et pas forcément critiquées, que certains ont une pertinence anthropologique, puisque c'est vrai que dire que le soleil se lève et se couche, c'est une vérité anthropologique que si on... Dans les termes de l'expérience perceptive ordinaire, et que donc dans les métaphores, tout ça est coprésent dans la littérature, avec des statuts de validité qui sont non triés, je dirais, pas seulement dans la poésie, puisque ce qui va valider l'usage des métaphores, c'est ce qu'on va en faire en fait, et pas leur rapport à un savoir existant. Donc, dire que le soleil se lève ou se couche dans la langue même, c'est quelque chose qui est juste en un sens, même si c'est épistémiquement faux et faux avérée, enfin dans la, d'une fausseté avérée depuis très longtemps. C'est quand même étrange. Je ne sais pas si vous, vous êtes intéressé à ces phénomènes d'anachronisme.
Oui, bien sûr. Enfin, ça ne me pose pas de problème dans la mesure là où nous vivons dans des mondes sémantiques virtuels qui sont parallèles. Hein. Donc il y a en effet coexistence d'une sorte de choses. Et les textes, bien sûr, les textes sont largement des conservatoires hein, de ces modèles épistémiques dont nous faisons quelque chose qui n'est plus la même chose que ça signifiait au point de départ, mais dont nous faisons en effet autre chose. Et ça coexiste parfaitement. Et ça n'est pas propre au littéraire. L'une des avancées importantes de l'histoire des sciences, par exemple, c'est de reconnaître que dans le travail même d'élaboration de ce qui est accepté comme en effet acquis, scientifique, il y a toute une série de choses qui relèvent de la science caduque, de la pseudo-science, du fantasme, et ainsi de suite. Le cas le plus typique de ça, c'est le travail qu'a fait Holton, par exemple, Gerald Holton, qui a toute une théorie de l'imagination scientifique, qui est tout à fait passionnante, ce qu'il appelle le schématisme. Holton, qui a travaillé sur ce qu'on pourrait appeler les deux Newton, la malle de Newton, où l'on voit que le travail fondateur, du point de vue scientifique de Newton, est complètement pénétré de son travail qui n'est pas juste parallèle, mais qui est simultané, qui est le même travail sur l'alchimie, par exemple. Hein. Le manuscrit alchimique de Newton, on a commencé à en prendre connaissance et à accepter leur existence, leur statut, qu'il y a une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Donc là, on voit très bien, à partir d'exemples comme ceci, qu'il y a la possibilité, y compris dans le champ scientifique, de coexistence et de copénétration, en réalité, de mondes qui sont virtuellement différents, mais qui sont porteurs de sens chacun à leur façon. Et ce que j'en tire aussi comme conclusion, c'est qu'il faut, en tant que littéraire, nous préserver de notre propre scientisme spontané. Ça me paraît très important. Je suis de plus en plus sensible à ça, bien sûr. J'y suis surtout sensible depuis que je discute avec des amis scientifiques qui sont beaucoup moins scientistes que moi. C'est caractéristique de ce qui se passe dans les sciences aujourd'hui. Il y a des scientifiques scientistes, bien entendu, qui pensent que seul le discours scientifique nous dit le vrai sur le réel, n'est-ce pas, et qu'il n'y a qu'une façon d'être scientifique. Mais je veux dire qu'ils sont assez minoritaires, ces scientifiques-là. En revanche, chez les littéraires, il y a beaucoup plus de scientistes, de gens qui pensent qu'en effet, il y a quelque chose qui est la science, que si l'on utilise les méthodes d'une certaine manière, si l'on fait une corrélation bien construite entre des concepts, des méthodes, une démarche, une description, etc., on va faire quelque chose de scientifique. Mais cette idée de science est une idée profondément scientiste. Et les littéraires ont largement hérité le scientisme de la fin du XIXe siècle et ne sont pas suffisamment relativistes en un sens. Cela dit, ils peuvent aussi l'être trop. C'est encore l'affaire Sokal, bien entendu. Et là, c'est l'autre aspect de la chose. Les littéraires là, qui prennent au pied de la lettre certaines expressions relativistes chez les scientifiques vivent dans un monde de fiction sans aucun rapport avec la science. Ils imaginent qu'il n'y a plus de validation, il n'y a plus de test de réalité du discours scientifique. Alors là, évidemment, ils sont dans l'erreur. Mais ça peut produire, pourquoi pas, ça peut produire des effets, ça produira peut-être des fictions aussi.
En ce qui concerne les métaphores, le statut de la métaphore, mais du point de vue d'un physicien ou d'un mathématicien, je veux dire, est-ce que c'est vraiment en termes de métaphore, par exemple, qu'un physicien va parler du chat de Schrödinger, ou plutôt en termes de modélisation, et dans ce cas-là, ça pose d'autres questions, et notamment la question de la vérité ou de la fausse connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, un modèle est faux, est vrai jusqu'à ce qu'un autre le remplace. Ils disent, voilà, celui-ci est faux, maintenant celui-ci le dépasse et donne quelque chose, une autre vision des choses. Donc est-ce que finalement, aussi, en posant cette question de la modélisation, on ne rejoint pas la notion de fiction qui elle-même est une sorte de modélisation? Alors là, je laisserai toutes les paroles à Marie, qui, avec dans le livre de Jean-Marie Schaeffer, qui étudie un aspect de la modélisation.
Oui, c'est une question difficile, hein, parce que la question du statut de modélisation en science elle-même n'est pas réglée. Il n'y a pas de consensus là-dessus. Bon, on sait que c'est nécessaire, hein, on a besoin de construire quelque chose de cette nature, mais quant à savoir à quoi ça réfère, hein, ça c'est autre chose. Et peut-on assimiler ça à de la fiction? Oui et non.
Ça dépend de la définition de fiction. C'est-à-dire que si on réduit la fiction à l'imagination, ça peut peut-être correspondre. Enfin, je veux dire.
C'est difficile. Là aussi, je crois qu'il faut le prendre au cas par cas, parce que la modélisation se fait différemment, disons, en physique, en cosmologie, en biologie, etc. Hein. Alors, il y aurait certainement des différences à faire. Et il est évident que, un néo-darwinien, par exemple, crée un modèle de ce qu'a pu être la diffusion de l'ADN des mitochondries, par exemple, pour reconstituer une filiation génétique, il ne fait pas la même chose que celui qui construit un modèle du boson, par exemple, hein, en physique. C'est pas du tout la même opération. Certainement l'imagination est nécessaire, mais ça ne fait que reposer le problème de ce que c'est que l'activité imaginante elle-même. Il y a des réponses différentes. Je mentionnais Holton, qui a écrit sur l'imagination scientifique, qui a ses propres théories sur la manière dont ça marche. Mais c'est un modèle. C'est un modèle parmi d'autres de ce que fait et comment marche l'imagination en matière de construction de modèles.
Oui, puis les scientifiques, enfin les cosmologues, les mathématiciens ou les physiciens de l'atome sont à un moment où ils ont un usage peut-être plus libre des métaphores parce qu'ils sont par-delà radicalement de toute modélisation possible. On ne modélise pas un espace quantique, on ne modélise pas le système des quarks, etc. Donc ils ont une liberté qui est d'autant plus grande qu'ils savent pertinemment que c'est par-delà ce que la représentation commune peut admettre.
Pas tout à fait, parce que cette modélisation n'est pas libre. Le modèle en question, lorsqu'il s'agit de modéliser un quark, par exemple, hein, cette modélisation...
C'est plus des modèles, c'est des équations. C'est plus des modèles.
Oui, non, mais ils appellent ça des modèles. Oui, ce modèle est mathématique.
Mais c'est plus des modèles au sens de fiction, ça ne sont plus des représentations.
On a tout à fait échappé à ça. Je citais Bachelard qui parlait de l'inimaginable à propos du rêve. On y est, en effet. C'est inimaginable, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas modélisable. Donc là, il y a une disjonction qui se produit entre imagination, représentation et modèle. Ça a été très difficile d'accepter ce tournant. Il a fallu le faire en particulier avec les mathématiques, à la fin du 19e siècle, gens comme Cantor, ainsi de suite, ont amené à rompre définitivement avec la possibilité d'imaginer les mathématiques, alors que c'était encore possible, avant la refondation moderniste des mathématiques. Donc là, on est entré dans un monde qui est un monde où il n'est pas possible de communiquer quelque chose qui serait imaginable de manière contrôlée. Donc c'est un autre univers dans lequel on est.
Oui, si. Alors, moi, je ne connais rien du tout en science et Alexandre connaît la théorie des supercordes et pas moi, donc il va me dire si j'ai tort ou pas, mais j'ai l'impression qu'une métaphore en science ne répond pas à un besoin de modélisation, mais à un besoin de dénomination, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle... On est en deçà de la métaphore contraignante du discours littéraire ou du discours descriptif. C'est-à-dire la corde des supercordes, je ne crois pas qu'on se demande qui la tient à un bout et qui la tient à un autre. Ça répond à un besoin de nomination.
Oui, on met une étiquette.
Et il y aurait comme ça une gradation. Il y a un long processus avant d'arriver à la fiction, de la dénomination jusqu'à la constitution d'un modèle, jusqu'à la constitution d'un monde, qui est encore un stade supérieur. Je ne pense pas qu'on puisse trouver de la fiction germinante dans la métaphore scientifique. Parce qu'elle comble un autre besoin.
À nouveau, ça dépend, c'est vrai ce que disait Michel.
Sauf en termes de réception. Sauf justement parce qu'on est charmé par l'usage du mot corde. Ou que celui qui nomme est charmé lui-même par l'usage du mot corde.
Mais je me demande s'il ne faudrait pas justement, enfin, simplement, c'est votre question qui me faisait penser à ça, s'il ne faut pas essayer d'éviter, justement, pour pas tomber dans le scientisme, d'éviter au maximum de raisonner en termes ontologiques, c'est-à-dire éviter de se demander qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est la fiction ou est-ce que ce n'est pas la fiction? Mais plutôt de se demander comment ça marche, comment ça se valide.
Puis surtout à quel besoin ça répond.
Comment on le construit, comment on s'en sert, comment ça marche, comment ça se valide. Parce que c'est vrai que le livre de Schaeffer, il montre bien que la fiction est un cas particulier de modélisation. Il n'y a jamais de coextension. Bon, c'est un cas dans lequel modélisation, représentation et fiction sont coextensifs. Hein, bon, le point d'arrivée, mais on peut très bien imaginer la modélisation, c'est une chose, la représentation, c'en est une autre, et la fiction, c'est encore une troisième chose. On peut avoir des modélisations sans représentation, des modélisations mathématiques, il n'y a pas de représentation. Je veux dire, on n'en a pas besoin, tout simplement, ça ne sert à rien. Hein, ça sert à rien. Et il y a des représentations qui ne sont pas forcément des modélisations. Vous voyez ce que je veux dire ?
Alors, pour les mathématiques, il n'y a pas de représentation, oui, non, parce qu'il y a même un langage qui représente beaucoup de choses. Alors, peut-être pas pour nous.
Oui, mais tout dépend de ce qu'on appelle représentation. Alors, à ce moment-là, entendons-nous sur le sens des termes.
Une représentation. Ou alors, une représentation.
Non, mais il faut s'entendre sur ce qu'on appelle représentation, si on en donne une définition fonctionnelle ou si on donne une définition anthropologique. Moi, je dis une représentation au sens anthropologique du terme. Quelque chose dont on peut se former une représentation, c'est-à-dire sous forme d'image mentale, etc. Ou même... c'est ça, une représentation. Hein.
Je crois qu'on peut ajouter que l'un des caractères de la fiction, c'est aussi qu'elle est capable, d'une certaine manière, de représenter l'irreprésentable.
Oui.
Hein. Et là, c'est votre remarque à propos des mathématiques qui me fait penser, par exemple, à un roman comme celui d'Oxyadis, si vous connaissez, qui s'intitule « Mon oncle Paul, la conjecture de Goldbach ». C'est un roman entièrement fondé sur l'impossibilité de trouver là une formule, de prouver ce qui est une conjecture, vous savez, comme était la conjecture de Fermat jusqu'à ce que quelqu'un finalement la résolve, 4 siècles plus tard. Il y a là un personnage qui est un personnage de mathématicien qui s'est donné pour tâche de résoudre ces conjectures qui existent effectivement, qui portent sur des conditions dans lesquelles une addition de nombres premiers donne quelque chose d'autre. Très simple pour formulation. Hein. Totalement irreprésentable. Enfin, ils ne vont pas nous représenter cet objet, puisqu'il n'a pas été prouvé. On n'a pas de formule qui nous permette de lui donner une existence. C'est donc un pur problème, quelque chose qui est complètement évanescent. Tout le roman, écrit par un mathématicien, tout le roman tourne autour de ça. Donc la fiction elle-même représente, d'une certaine manière, l'irreprésentabilité de cet objet de la conjecture. Et c'est l'une des forces de la fiction que de faire ça. Elle peut désigner, ce qui n'a pas d'existence, ce qu'on ne sait pas faire exister autrement, etc. Et quand elle fait ça, elle est proche justement de certaines sciences qui sont capables, par une formulation, au sens de la formule, qui sont capables de désigner quelque chose, mais sur lequel il n'y a aucune saisie, dont il n'y a pas de représentation possible.
Et là, on a des exemples avec le champ plastique, de ce que vous dites.
Ah oui, je crois que c'est vraiment l'une des belles réalisations là, qui permettent de bien cibler ça, bien comprendre.
Mais ce qui m'intéressait, moi, dans la modélisation, c'est parce que j'ai l'impression, mais je n'ai pas lu beaucoup non plus de textes scientifiques, je n'ai pas une connaissance très étendue malheureusement, mais j'ai pas eu l'impression que le langage, que même quelqu'un qui vulgarise beaucoup les sciences comme les Lebrun utilise beaucoup le terme de métaphore. neutraliser les termes qu'ils utilisent et les garder, les conserver tels quels, sans faire circuler des terminologies qui sont en commun littéraire et qui ont une signification très précise.
Oui, là, vous évoquez les vidéos blancs, évidemment, il est tout à fait caractéristique de cet effort, hein, qui consiste à essayer de déconstruire, hein, des images toutes faites, hein, des représentations trop spontanées. Il est très opposé, évidemment, à ce que font ses collègues physiciens, justement, hein, en utilisant des termes courants, par exemple, parce que, selon lui, je pense qu'il a effectivement raison, l'effort de la science, depuis le XVIIe siècle, c'est un effort de dématérialisation. La mathématisation, de la physique en particulier, c'est quelque chose qui aboutit à dématérialiser. Bachelard, de ce côté, critiquait aussi, bien sûr, notre penchant spontané à substantialiser la matière, par exemple. C'est aussi l'un des points de contact, d'ailleurs, entre les deux Bachelard, ceci. Et donc, en effet, là, nous sommes confrontés à la tentative de donner à connaître, en court-circuitant l'image, court-circuitant la métaphore. Alors, de la même manière qu'on dit qu'il y a une pensée sans image, peut-il y avoir une représentation sans image, une modélisation sans image.
Mais souvent, lorsqu'on a les métaphores des jumeaux de Langevin, du chat, etc., c'est ce que l'expérience humaine pourrait, dans des cas où il n'y aurait pas de représentation, ressentir, etc. Et les scientifiques peuvent, sans trop d'infractions épistémologiques, si ce n'est offrir un modèle ou une description de ce que peut être un univers à 8 dimensions, mais peuvent en revanche, avec pas mal de rigueur, parce qu'il s'agit simplement de se représenter un élément face, se dire qu'est-ce que peut être la représentation qu'on peut avoir face à ce type d'univers-là, comment un être humain percevrait ce type d'univers-là. Et là, la fiction fonctionne assez bien sans infraction, oui, parce qu'elle n'a pas la velléité de transcender ces limites de l'expérience humaine, mais au contraire,
oui,
de les...
Oui, la fiction est très efficace pour ça. Je pense que pour le comprendre, on peut regarder des choses qui sont beaucoup plus courantes et plus simples que les domaines scientifiques. Lorsque vous lisez un roman historique, par exemple, nous disons quelque chose qui est une construction, une modélisation qui n'est pas différente en essence de ce qui se passe lorsqu'on essaie de se représenter l'univers des particules subatomiques. Pas différent. Simplement, c'est construit à partir d'éléments qui nous sont familiers, mais l'objet lui-même, il est essentiellement irreprésentable. Essayer de se représenter, ce qu'était la réalité des jeux du cirque romain, des gladiateurs à une certaine époque, ça nous est apparemment possible, mais la réalité, c'est que c'est fondé sur une totale méconnaissance. Ça n'est pas représentable. Alors, il y a toute une parenté ici, bien sûr, de la fiction et du simulacre, évidemment, et la connaissance est largement de l'ordre du simulacre. Lorsque Bacon, que je citais, parle des idoles, évidemment, on peut très difficilement s'en passer. Lorsqu'il les décrit, il dit qu'il faut essayer, évidemment, de les contourner, de s'en passer. Mais ces fallacies sont consubstantielles à la connaissance. Donc nous avons aussi besoin de ces simulacres pour connaître, même lorsque nous savons que cette connaissance est en partie une connaissance faite d'artefacts.
Et peut-être que la littérature est plus efficace lorsqu'elle utilise la voie de l'immersion que celle de la modélisation, pour reprendre l'opposition chez Farrier.
Oui.
Mais bon, on va bientôt. Est-ce que je peux dire un mot pour conclure? Parce qu'il est 7h15, et puis bon. Je crois que ce qu'il faudrait. Moi, ce que je retiens dans ce qui est ça, c'est bon. Nous avons passé un grand nombre de choses en revue. Je voudrais rester autour de l'idée de l'image et de ce que Hugues Marchal disait sur la multiplicité des connexions et la circulation des savoirs. Je crois que l'idée qu'il faut garder, c'est qu'un grand nombre d'écrivains majeurs ont eu avec la science un rapport d'intérêt actif, critique, qui concernait à la fois le savoir scientifique et les usages sociaux de ce savoir, ces usages sociaux, ces applications idéologiques, etc. C'est le cas de manière très, très, très différente, qu'il s'agisse de Balzac, de Flaubert, de Proust, et des écrivains qui, ça n'est pas par hasard si ces écrivains qu'on nomme sont aussi ceux qui ont élaboré, enfin ceux qui ont construit les formes les plus élaborées de la fiction occidentale. Et il me semble que il y a là une leçon au sens où c'est quand même une grande richesse. Imaginons un monde dans lequel il y aurait Lévi Leblon d'un côté et Yves Bonnefoy de l'autre. Un monde dans lequel la littérature et la science s'ignoreraient, se tourneraient le dos, en prétendant s'autonomiser et vivre chacun sur leur champ de savoir ou de compétences. Bon, je pense que c'est un univers très appauvri. Il y a un risque dans l'image, quel que soit le sens qu'on en donne, il y a un risque parce que c'est un objet difficilement maîtrisable, mais je pense que à nous passer d'image, nous perdrions encore beaucoup plus qu'à nous y... Enfin, je veux dire, nous risquons plus, peut-être, nous ne risquons pas tellement, au fond, nous qui sommes ici, de nous y perdre. Peut-être qu'il y a un fou littéraire parmi nous, mais il faudra qu'il travaille à se découvrir. Mais je pense qu'on a plus à perdre, en fait, à renoncer à penser ces modes d'articulation et de circulation entre les savoirs, y compris dans la période actuelle, parce que il est vrai que bon, dans les sciences, il n'y a pas que la physique nucléaire, il y a toute la biologie, il y a tout un aspect des sciences de la vie par lesquels on est très directement concerné, qui a une dimension existentielle ou expérientielle qui est absolument indiscutable. Et je crois que, au fond, ce que nous montre l'exemple des grands écrivains, c'est que ça nous concerne. En tant que littéraire, parce que nous sommes ici en tant que littéraire, et que nous avons intérêt, enfin, il est bon que nous y intéressions, que nous réfléchissions à ça, que nous essayions de nous en servir. Mais je ne pense pas dire une chose qui soit différente de celle que vous pensez.
Oui, tout à fait. Ma position de fond, c'est celle d'un monisme cognitif, si je puis dire. La connaissance est une, et il y a des façons différentes de la réaliser, dans des langages différents, des systèmes de codage, des conventions, des pactes différents. A priori, il n'y a pas de frontière essentielle, insurmontable, entre les zones qui sont celles du savoir de type scientifique et les savoirs de type littéraire. Lorsque nous partons de l'opposition entre science et littérature, nous partons d'une opposition irritée, dont nous connaissons l'histoire. Et donc nous essayons, lorsqu'on essaie de travailler à partir de ces notions-là, de leur opposition, en fait, nous rendons la tâche essentiellement impossible, puisque là, ça fait partie de ces... peut-être des idoles du forum ou des idoles de la tribu, selon Bacon. Et je crois qu'on peut les contourner. Il y a un geste bachelardien, pour revenir à lui, un geste bachelardien qui est celui du mouvement, du dépassement, de l'acheminement vers autre chose qui concilie des aspects de notre culture qui sont essentiellement en famille, si je puis dire.
Écoutez, merci à tous les deux, en tout cas.
Merci à vous. Donc, alors, attendez, avant que vous nous dispersiez, nous nous retrouvons pour la...